lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Then we're heading into Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside of Sebastian Vettel. Has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Vettel and gets it right for the rest of challenging Sebastian Vettel. Now as we find a fourth pin on the rest of Potter towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Chine qui a eu lieu, comme tous les ans, à Shanghai. Pour m'accompagner comme d'habitude, et normalement vous le savez, hein, vous avez suivi les dernières émissions, hein, il va pousser la chansonnette cette semaine. Bonsoir Dino.
Bonsoir chers amis de la Réunion. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porgerà chiuma... Mia putain, ma tablette s'éteint.
Oui, je ne connais pas les paroles par cœur. Je m'excuse, je viens d'être trahi par ma tablette Samsung.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Shinji. Mais nous ne sommes pas seuls.
Bah non.
Ah, comment je t'ai eu.
Parce que ce soir, nous sommes accompagnés de Rémi.
Bonsoir.
Alors première question, Rémi, portes-tu ton magnifique t-shirt Marc Weber?
Eh oui.
Ah.
Eh oui.
Nous demanderons dans le prochain mag si Fab porte son caleçon dans les SAV de la F1 Podbox.
Et je signale aussi qu'il y a 10 minutes, il faisait beau, maintenant c'est nuageux.
Oui, c'est parce que t'as appuyé sur le bouton faible. Parce qu'il faut quand même savoir, c'est que tu as découvert le mystère de Marc Weber grâce à ce t-shirt. Ils se sont trahis par un t-shirt.
Alors en fait, c'est sur le t-shirt que j'ai reçu, ben il y a le schéma des boutons du volant de Marc Weber. Et on remarque un truc tout con, c'est que juste à côté du bouton multi-position du réglage du KERS, il y a un bouton fail. C'est tout con. Hein.
Voilà, il est juste à côté, c'est comme ça quand il veut mettre le KERS, en fait ils ont inversé le bouton.
Voilà. Messieurs, comme d'habitude, je vais vous poser la question traditionnelle.
Et nous y répondrons, poulet.
Private joke.
Tout à fait, poulet.
Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Alors, qualif inexistante, pour commencer. Et après, les premiers tours, c'était un petit peu brouillon, parce que vu qu'ils sont arrêtés très rapidement, on savait pas trop comment était la situation, etc. Mais après, au bout de, on va dire, d'une vingtaine de tours, ça s'est commencé à être à peu près clair, et où là, on a pu bien suivre l'évolution après, sinon, quand même pas mal d'action, quand même.
Dino?
Moi, j'ai bien aimé ce Grand Prix à la stratégie.
Oui, tu peux te le dire.
Je ne suis pas d'accord avec l'impression générale qui est que ça a été une course un peu brouillonne. Je pense qu'on a connu beaucoup plus brouillon par le passé, notamment en Chine.
Quand on y pense, en fait, il y a eu deux stratégies.
Il y en a eu trois.
Principalement.
Il y a eu la stratégie principale, il y a eu celle de Button en deux arrêts, et il y a eu celle de Vettel en trois arrêts, en partant en pneu médium.
Oui, voilà.
Et c'est vrai que ce qui fait que ça brouille un peu, c'est qu'il y a effectivement ces trois stratégies, le fait que ces pilotes-là, enfin avec aussi Hülkenberg, se retrouve en tête parce que les leaders s'arrêtent très vite, et en plus derrière il y a eu quand même un petit moment de folie, un petit moment de stress avec pas mal d'accidents et compagnie qui ont rendu un peu ce côté brouillon. Et quand on regarde la deuxième partie de la course, elle est très lisible, les stratégies sont très lisibles. Enfin, moi personnellement, c'est moi qui ai fait le résumé sur FanF1. Généralement je suis obligé de revoir le Grand Prix derrière parce que le fait de faire le résumé m'écarte, m'empêche d'analyser vraiment la course, et là pourtant j'ai bien compris la course et j'ai pas ressenti besoin d'aller regarder à nouveau le résumé. Donc,
en tout cas, encore une fois, bon, c'est vrai que le circuit de Shanghai n'est pas réputé pour être le plus grand circuit de la saison, mais on a quand même des Grands Prix de Chine, en tout cas ces derniers temps, agités, oui. Il se passe des choses, en tout cas.
Tout à fait.
On ne s'ennuie pas. Alors, messieurs, savez-vous quelle date nous étions ce dimanche?
On était le 14.
Oui. Et non, tu n'as pas encore réussi les féméries parce que la question ne porte pas sur la date.
C'est dommage.
Ça, c'est, on devrait le faire. Tiens, toutes les semaines, je demande quelle est la date. Au moins, c'est simple. Ça sera une question de rapidité et tout.
Oh, bah là, vous êtes sur de me battre. Donc, c'est l'heure de laisser le mérite de poulet.
Oh, arrête.
Toute l'émission, c'est dit, je t'appelle poulet.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Cette semaine, messieurs, le chiffre de l'éphéméride est 48 368 504.
Ah ouais, c'est pas un petit...
Le nombre de poils au cul qu'a MacGyver.
Non.
Est-ce que c'est un nombre?
Parce qu'il faut savoir que Shinji a fait un stage en archéologie. Shinji a fait un stage... Il a fait un stage archéologie aujourd'hui et il a déterré une blague qui date du 3e siècle après Jésus-Christ sur MacGyver.
Est-ce que c'est un nombre de choses, donc?
Non.
Est-ce que c'est un nombre de personnes?
Personne.
Oui.
C'est une population d'un pays?
Non.
Population d'une ville?
D'un état?
Ni d'un état, ni d'une ville.
C'est la population d'une aire géographique?
Ce n'est pas
une
population.
Un nombre de personnes qui ont fait quelque chose?
Oui.
Qui sont allées au Grand Prix de Chine? Ah non, c'est pas rapport à F1.
Non.
Est-ce que ces 48 millions à peu près de personnes se sont réunies pour une raison?
Réunies, tu veux dire en même temps ou?
Bah non, mais dire qu'est-ce qu'ils sont allés tous voir un même événement ou un truc dans le genre?
Oui, on peut dire.
Ils ont visité une exposition par exemple.
Oui.
Une exposition universelle?
Oui.
Laquelle?
T'es bon.
Bah celle de Paris en 1889.
Bruxelles.
Ah non.
Ah merde. 1900.
Oui, c'est le nombre de visites. T'as été très très bon. T'as trouvé exposition.
Bon, je suis le Lewis Hamilton de cet éphéméride.
Tu t'es juste planté sur le 1800. Oui, parce que c'est vrai, on parle souvent de 1889 pour la Tour Eiffel. Il y a aussi eu l'exposition universelle de 1900. Imaginez, il y a plus d'un siècle. 48 millions de visiteurs. En plus, c'était payant. Hein. C'était 1 franc. Et 2 francs qu'on visitait le soir.
Aujourd'hui, pour 1 franc, t'as quoi? 1 franc.
Un franc.
Ah non, 29 francs maintenant, il est plus cher.
Bah ouais. Exposition qui a été inaugurée le 14 avril et qui a duré jusqu'au 12 novembre 1900, qui a duré 212 jours. Alors c'était une exposition qui s'étendait sur 216 hectares, il y avait deux pôles, hein. Il y en avait un en fait qui s'étendait du Champ de Mars avec le Trocadéro jusqu'aux Invalides et une deuxième partie au Bois de Vincennes. En comparaison, elle était 10 fois plus étendue que la première à Londres en 1855. Elle a accueilli 83 000 exposants, dont 45 000 étrangers. Et elle a amené des technologies et même des choses qui sont encore aujourd'hui dans le Paris d'aujourd'hui. Alors, les choses qui ne sont pas restées, mais qui étaient des innovations, il y avait la rue de l'avenir, qui était un trottoir roulant, qui a emmené des Invalides jusqu'au Champ de Mars.
Un trottoir roulant qui emmène des Invalides. Moi, j'adore.
Oui, c'est vrai. L'expo de 1900, c'est aussi l'arrivée du métro, qui a été inauguré le 19 juillet de la même année. C'est aussi la création de la gare d'Orsay qui est devenue le musée, la gare des Invalides qui sert aujourd'hui pour le RER, et la gare de Lyon.
Qui sert aussi aujourd'hui pour aller, Lyon. Pour aller à Lyon.
De gare, pour aller à Lyon. Pour aller à Lyon. On y note comme attraction, il y avait par exemple un globe céleste, qui était une représentation de la sphère céleste, qui était juste à côté de la tour Eiffel, qui était en taille, ça allait quand même jusqu'au premier étage.
Oh, je vois.
Imagine, voilà, c'est une belle sphère céleste. Il y a aussi eu des attractions cinématographiques, c'est la projection des films lumière sur écran géant, la projection de films sonores. Dans la ville, c'est la construction du petit et du grand palais qui existe encore aujourd'hui. C'est aussi l'apparition d'une grande route de Paris qui a été démolie en 1937, mais qui est restée la plus grande route de Paris en fait jusqu'aux années 80. Elle faisait 100 mètres de diamètre.
Ah ouais.
C'est aussi une exposition qui nous a laissé le pont Alexandre III, qui était à l'époque... c'est son héritier Nicolas II qui était déjà tsar, mais c'est en hommage au tsar russe Alexandre III, symbole de l'alliance franco-russe.
C'est bon les franco-russes.
À noter en comparaison, donc en 1851, la première expo de Londres, c'était 6 millions de visiteurs. Là, on était à 48 millions de payants. En comparaison, celle de 1889, hein, qui était déjà à Paris, c'était entre guillemets aussi seulement 32 millions.
Ouais.
C'est un énorme succès. C'est même comparable à des chiffres que font aujourd'hui des expos universelles. Vraiment un énorme truc.
Mais c'est vrai que ça a un peu perdu de son lustre, les expos universels.
De son lustre, ouais. Ça a peut-être un peu changé de... Enfin, c'est toujours un moyen pour les pays de montrer leur savoir-faire, hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est plus des grands événements comme ça pouvait l'être avant.
Bah, c'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment un événement pour un site médiatique, sauf qu'aujourd'hui, on en parle un peu tout le temps. Enfin, il y a la télé et compagnie, il y a toutes ces innovations-là qui font
Puis,
que...
Voilà. Les expos pouvaient être l'occasion, en effet, de découvrir des grandes nouveautés technologiques. C'est plus vraiment le cas. Alors, ça a été la dernière expo universelle en France, mais pas la dernière expo internationale. Vous savez, en fait, il y a deux types d'expositions. Il y a les expositions universelles qui durent 6 mois, où les pays construisent leurs pavillons. Et puis, il y a les expositions internationales ou spécialisées, où là, justement, il y a un thème, il est plus centré, et ça dure 3 mois. Et là, par contre, c'est l'organisateur qui crée le pavillon, et c'est les États, ensuite, qui aménagent, en fait, les pavillons qu'on met à leur disposition. Et donc, en effet, il faut quand même noter donc que avant, il y avait eu notamment celle de 1889 qui nous a donné la Tour Eiffel. Et après, il y a eu 2 grandes expositions à Paris qui étaient des expositions spécialisées. En 1925, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. C'est très pompeux quand même comme titre. Et en 1937, l'exposition internationale arts et techniques dans la vie moderne, qui elle est notable en fait pour nous avoir laissé le Palais de Chaillot. Et donc le Trocadéro tel qu'il est aujourd'hui, ainsi que le Palais de Tokyo. Ça, ce sont des héritages de l'exposition de 1937. Et alors, quand même noter, parce que quand on parle de grande exposition, parfois on évoque aussi l'exposition coloniale de 1931. Ça n'est pas une expo universelle, hein. C'est un truc bien français, malheureusement, hein. Ça n'a rien à voir. Faut vraiment le déconnecter. Et donc depuis 1937, il n'y a pas eu d'expo même en France. Il y a eu, alors pour 1989, il y a eu un projet, forcément, de nouveau anniversaire, mais ça ne s'est pas fait. Et de même, je crois que dans les années 2000, à un moment, il y avait un projet de faire quelque chose au niveau de la Seine-Saint-Denis. Je crois que c'était pour 2004, mais là non plus, ça ne s'est pas fait. Donc ça fait plus de 80 ans qu'il n'y a pas eu de grande exposition en France. Et donc, faut le dire, hein, donc les expos universelles, ça continue partout dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez quelle était la dernière.
À Shanghai.
Exactement, c'était Shanghai. Et tu te souviens d'ailleurs que sur le Haut Grand Prix de Chine, il y avait la fameuse tribune près du Banking, il y avait personne. Par contre, il y avait une méga pub pour Shanghai 2010. Plus récemment, c'était une expo spécialisée. Par contre, c'était à Yeosu. C'était en 2012, alors que avec pour thème les océans, hein, pour des côtes et des océans vivants. Donc ça, c'est les dernières. Et on connaît déjà les prochaines.
C'est pas Johannesburg ou
Johannesburg ou
Vous jouez à Lesbourg.
Donc en 2015, c'est à Milan, hein, qui est donc.
C'est normal, hein, Milan,
qui est proche de Johannesburg, hein. Oui. Donc Milan 2015, hein, qui aura pour intitulé Nourrir la planète, énergie pour la vie. Oui, c'est pompeux. C'est toujours pompeux, hein, les titres d'expo universelle, hein. En 2017, il y aura une expo spécialisée à Astana, au Kazakhstan, sur les.
C'est pas très loin de Johannesburg, ça.
C'est pas très loin de Johannesburg.
Désolé, mais on peut s'arranger.
Sur les énergies durables et l'environnement. Et donc, il y a déjà des candidatures pour l'expo universelle suivante, qui serait a priori en 2020, parce que normalement, je dis bien normalement, c'est plus ou moins tous les 5 ans, mais ça peut être beaucoup plus. Pour 2020, alors il y a déjà plusieurs candidates, Sao Paulo, Dubaï, Izmir, Ekaterinbourg, Utaya, de toute façon on sait bien que ça va être à Dubaï, parce que c'est eux qui vont mettre plein de fric.
Ah, puis Sao Paulo, ils ont un circuit à rénover.
Ouais. Oui. S'ils le rénovent.
Oui.
Mais bon, le côté 5 ans, parce que l'idée en fait, c'est que normalement t'as une expo universelle plus ou moins tous les 5 ans, et entre, t'as des expos spécialisées. Mais bon, quand tu regardes, en 20 ans, il y en a eu que 3 expos universelles. Il y en a eu une en 92 à Séville, une en 2000 à Hanovre, où genre ils ont fait 25 millions de visiteurs. Hein. Donc pour vous dire que voilà, près de 50 millions de visiteurs en 1900, c'est juste énorme. Et puis 2010 à Shanghai. Donc le fait de faire tous les 5 ans, parce que ça coûte quand même de l'argent. Hein. C'est comme les jeux, hein, ça coûte beaucoup d'argent et tu sais pas vraiment si ça va en rapporter beaucoup.
Oui.
D'ailleurs, à noter que les Jeux de Paris en 1900 étaient dans le cadre de ces Jeux, de cette exposition universelle, mais c'est très flou, c'est-à-dire que Pierre de Coubertin voulait les faire reconnaître comme des Jeux Olympiques, les organisateurs s'en foutaient, donc les épreuves sportives ont eu lieu, mais c'est finalement quasiment a posteriori que c'est devenu des Jeux Olympiques.
Avec du tir au pigeon
avec les vrais pigeons, la fameuse anecdote. Donc il y a des gens voilà qui ont participé à des Jeux sans savoir que c'était des Jeux. Ça paraît dingue aujourd'hui. Ok, bravo Dino.
Aujourd'hui j'étais déterminé. Après l'échec de Sepang, il fallait que je me remette. Et là aujourd'hui j'avais les crocs à la Hülkenberg, quoi. Ça rayait le parquet du voisin du dessous.
Non, c'est bien, j'avais des choses à dire un peu sur les expos universelles, parce que alors côté F1, c'est trop con parce que alors le 13 c'est l'anniversaire de Dan Gurney et de Max Mosley. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Paul Di Resta. demain le 17, hein, pour être précis, c'est quand même l'anniversaire de Grosjean et de Pat XIII, hein. Et alors par contre le 14.
Ouais, jeudi c'est Davidson.
Oui, on s'en fout, tu
vois. On s'en fout, mais c'est Davidson.
Mais alors le 14, il y a que dalle, hein. En Grand Prix, c'est bien simple. À part le Grand Prix de Chine cette année, il y a juste le Grand Prix de Saint-Marin en 2002, qui a été remporté par Schumacher. Quelle surprise. Devant Barrichello, quelle surprise. Et Ralf Schumacher, ouais, ça... ouais, si, ça, quand même, c'est une surprise.
Et la pole pour Schumacher, je parie.
Ça ne serait pas étonnant.
Dis-nous ce qu'il n'a pas fait dans ce Grand Prix, voilà.
Ben, vous savez quoi, hein? La grille, c'était Schumacher 1, Barrichello 2, et Schumacher 3. C'était
non,
pas,
ça devait bon, être, ça a l'air passionnant.
Ça devait être passionnant comme Grand Prix.
Ouais, bah, à l'époque, il démarrait, puis il se suivait, non, allez, il me semble bien, non? Je crois bien.
Oui, avec, ouais, il y avait quelque chose dans ce genre-là. C'était beaucoup plus clair à comprendre.
Ralf Schumacher, il a quand même été deuxième pendant la moitié du Grand Prix avant de passer troisième, hein. Wow. Parce que Barrichello, il est quand même tombé à la troisième place.
Oh.
Ouh là là.
Waouh.
Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Waouh.
Il y a eu du running sur ses pneus.
Bah, au début, parce que visiblement après, entre guillemets, tout est rentré dans l'ordre.
Bah, la radio, hein, de Ralf a grésillé. Oui, c'est pas la même écurie, hein, mais...
Précisons que Montoya, qui était parti quatrième, a fini quatrième. Donc,
Ah, c'est un peu décevant.
Oui. Bon, après, c'est un peu plus varié.
Il y a quatrième derrière le Schumacher, quand même, c'est la honte. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais...
Coulthard, qui est parti 6, ça finit 6. Bon, c'est... Voilà.
Bah, tu veux qu'on passe au quart d'heure de l'invité, poulet?
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Donc alors, Rémi, hein, tu le sais, depuis l'année dernière, nous recevons donc à chaque fois un invité et nous avons décidé de vous accorder un quart d'heure de gloire à l'invité, ce moment magique où Shinji ferme sa gueule. Et bien évidemment, ça commence par le...
Pour-pas-pour.
Le pour-pas-pour. Donc, je rappelle le concept ô combien difficile à cerner, je le comprends, du pour-pas-pour. Nous allons, je vais plus précisément, parce que Shinji doit se...
Et je précise, c'est pour-pas-pour, c'est pas poulet, pas poulet.
Bah tiens, aujourd'hui, ce sera poulet, pas poulet. Sur l'idée de poulet, ce sera poulet, pas poulet. Donc, le principe du poulet, pas poulet, c'est, on va te faire 10 propositions sur l'actualité de la F1, mais pas que. Voilà, à chaque fois, tu nous dis poulet ou pas poulet.
Je me voilà. Dois de dire que cette émission n'est pas sponsorisée par KFC.
Et à la fin, donc tu pourras revenir sur 3 choix de ton choix, plus un autre où là t'as pas le choix, t'es obligé d'y revenir.
Ah bon.
Voilà.
Je suis obligé.
D'avoir. Bon. Surprise, surprise. Alors quand tu es prêt, tu me le dis et je te poulet pas poulet.
Quand tu veux.
Alors, poulet ou pas poulet, délocaliser le Grand Prix du Brésil ailleurs qu'à Interlagos.
Pas poulet.
Poulet ou pas poulet, l'attribution d'un train de pneus supplémentaire aux écuries qui engage un troisième pilote lors des essais libres du vendredi matin.
Poulet.
Poulet ou pas poulet, la prise de mesures visant à augmenter la durée des arrêts au stand.
Pas poulet.
Poulet ou pas poulet, la fourniture du V6 turbo Mercedes à Force India en 2014.
Poulet.
Poulet ou pas poulet, le remplacement de Ross Brawn par Padillo à la direction de Mercedes.
Poulet.
Poulet ou pas poulet, Claire Williams, directrice adjointe de l'écurie Williams.
Pas poulet.
Poulet ou pas poulet, aller de Shanghai à Bahreïn à dos de chameau en récitant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avec un mégaphone. Pense à tous les pays que tu vas emprunter.
Répète, s'il te plaît.
Poulet ou pas poulet, aller de Shanghai à Bahreïn à dos de chameau en récitant la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avec un mégaphone.
Pas poulet, non.
Poulet ou pas poulet, le Grand Prix de Bahreïn.
Ouf, poulet.
Poulet ou pas poulet, le retour de Robert Kubica.
Pas poulet.
Et enfin, poulet ou pas poulet, la F1 sur Canal+.
Poulet.
Ok, donc ça nous fait 5 partout, 5 poulets et 5 pas poulets.
Ça devient n'importe quoi.
Autrement dit, 5 pour et 5 pas poulets.
Ça devient n'importe quoi cette émission cette année.
Arrête de critiquer les poulets, hein.
Je vais m'y perdre moi aussi.
Tu peux revenir sur d'abord peut-être commencer par revenir le choix imposé c'est la F1 sur Canal+. D'abord, est-ce que comment tu regardes la F1 et qu'est-ce que tu penses? Donc toi tu es plutôt pour, qu'est-ce que tu penses justement de la F1 sur Canal+?
Alors moi je regarde la F1 sur Canal+. Regarde ça, ouais. On va dire que je la regarde.
Ça veut dire qu'il regarde en fait la F1, les images de Canal+, mais pas directement vers les codeurs.
C'est tout à fait ça.
Nous ne te dénoncerons pas. Donc Rémi habite au 63 rue de Verneuil.
Ah non, mais
73 629.
Dans quelque temps, je serais bien dans la légalité. sauf que je vais payer quelqu'un en bière ou un truc du genre. Donc ouais, donc moi je suis totalement poulet, parce que bon, avant, au début, je regardais ça sur RTF1, puis ça commençait un peu à me gonfler les commentaires de bas niveau. Je me souviens surtout du, pour moi qui était le truc majeur, ça a été à Silverstone l'année dernière, et je sais plus qui devait faire un arrêt qui était à 20 secondes et qui disait « Ouais, ils vont ressortir côte à côte », et que comme prévu, il est ressorti 10 secondes devant, quoi. Donc je disais « Bon, c'est un truc qui m'a marqué personnellement, je me suis dit « Bon, bah, c'est fini, on va essayer de chercher quelque chose d'autre ». Donc après, je suis passé sur Sky Sport.
Pareil, les images de Sky Sport, mais pas via le décodeur Sky Sport. Nous, on balance, hein.
Ah, mais j'assume.
C'est le mec qui partit. Oui, alors après, je suis allé exprès vivre en Angleterre pour regarder les images de Sky Sport. Et bon, des fois, il captait pas, enfin, il faisait pas très beau en Angleterre. Donc, j'allais en Italie pour avoir les images de la RAI. Et puis, des fois, bon, bah, comme ça marchait pas, j'allais un petit peu aux États-Unis, vite fait, hein, mais vraiment juste le temps d'un week-end, bon, pour voir ça sur ESPN. Et puis après, bah, voilà, je revenais en Angleterre, quoi. Et tout ça, t'as mis 3 semaines. Non, j'ai mis 3 minutes.
Donc déjà, je trouve que l'avant-course et l'après-course sont déjà beaucoup plus fournis. Donc pour moi, c'est quand même un gros plus. T'as les intervenants qui font quelque chose de plus relevé. Donc après, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent. Eux-mêmes entre eux sont pas totalement d'accord avec ce qu'ils disent, mais au moins ça met vraiment une bonne animation que comparé aux commentateurs de TF1 qui pour moi mettaient un truc un peu morne et mettent pas trop déjà d'ambiance, quoi. Donc ce qu'ils disaient, c'est que ouais.
Mais ce week-end, on a eu moi je sais pas si vous avez eu cette impression là, mais j'ai eu l'impression que ils avaient plus d'entrée parce qu'on a vraiment vu, par exemple, Montagny a beaucoup insisté sur les ailerons. Mmh. On a vu plus de choses dans les stands et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont eu plus d'entrée, quoi.
Bah, c'est normal, à force, voilà, on
les connaît, aussi, hein. Au début, justement, qu'on avait Montagny qui était tout entièrement chez Lotus en Australie et en Malaisie. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est parti, on va voir Montagny qui va être pendant les 19 GP chez Lotus. Et là, pendant les essais libres, il me semble, je sais plus si c'est pendant la qualif aussi, non, je crois que c'est uniquement pendant les essais libres, il était chez.
Oui, il est passé chez Williams, chez Ferrari. Bon, après, en course, il est revenu chez Lotus, mais on n'a pas trop entendu en course.
Là, chez Lotus, ils n'avaient pas grand-chose à dire non plus, quoi. Il y a eu uniquement le moment quand Raikkonen a eu son problème d'aileron. Après, voilà, ils n'avaient pas grand-chose à dire, quoi, chez Lotus.
Mais c'est pareil, un truc qui fait plaisir avec Canal+, c'est si vous regardez sur les photos du week-end sur fanf1.com, y a des photos des écuries où on voit les micros de Canal+. Donc c'est la preuve quand même qu'il y a un dispositif un peu plus important quand même sur place avec Canal qu'avec TF1.
Après, donc j'ai envie de revenir sur, je peux prendre supplémentaire pour les jeunes. Donc c'est vrai, donc quand j'ai vu les essais libres 1 la dernière fois, y avait quasiment aucune action, les équipes limitent au maximum les essais libres pour garder un maximum leurs pneus pour les qualifs et la course. Donc ce qui fait que vendredi et le samedi matin, déjà qu'on n'avait pas trop d'action, alors là c'est encore plus fort. Donc leur ajouter un pneu, ça leur permettra d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Et aussi, ça, à mon avis, qui est un très très bon point, c'est que ça va forcer un peu les équipes qui veulent avoir ce train de pneus supplémentaires à faire rouler les jeunes, alors que d'habitude c'était vraiment déjà du miracle si t'avais le troisième pilote qui roulait.
Mais après, ce qu'il faudra voir, c'est quel type de pneu, parce que
ils avaient dit que c'était, je sais pas si c'est le pneu le plus dur qu'il est proposé pour le Grand Prix, ou c'est vraiment le pneu dur, le plus dur qu'ils ont en disposition, quoi.
Ouais, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce serait, donc c'est pour ça que dans l'article c'est pas présent comme info, parce que c'est pas une info bien cernée et compagnie. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce serait un pneu qui serait plus dur que le plus dur des pneus à porter, ce qui permettrait donc au pilote de vraiment rouler, d'avoir un long relais à faire, de quoi vraiment travailler, en sachant que ça n'avantagerait donc pas les équipe qui aurait ce train de pneus, puisque ils auront un pneu qui ne sera pas utilisé le restant du week-end. Donc ça peut aussi encourager par exemple les écuries pointes qui eux n'ont aucun intérêt à accepter cette proposition là, de leur dire écoutez, ça fera rouler du monde et ils en tireront pas avantage parce que ce pneu là ne sera pas utilisé.
Et l'avantage aussi c'est que comme ça justement les nouveaux pilotes qui vont arriver en F1 ont peut-être un peu plus d'expérience au niveau de la voiture, donc éviter des bourdes qu'il y a eu comme avec Gutiérrez.
Mais là, apparemment, aujourd'hui est sorti, il semblerait à la dernière minute qu'ils aient décidé de changer pour Bahreïn.
Il me semblait que le corps
pour Bahreïn.
Oui, Alors, normalement, à Bahreïn, ce qui était prévu par Pirelli, j'ai retrouvé le communiqué de presse de Pirelli, hein, ça c'est ce qu'ils avaient annoncé pour le début de saison. Donc à Bahreïn, orange dur et jaune tendre.
Ouais, ils vont.
Et apparemment, dans les communiqués qui sont sortis, aujourd'hui ou hier, ça n'était pas le tendre qui était indiqué, mais le médium.
Alors, ce qui est aussi dans les tuyaux, c'est qu'il pourrait très bien concevoir un pneu plus dur que le pneu dur actuel, et donc en fait ça aurait pour conséquence de décaler toute la chaîne, donc soit ça ferait un cinquième mélange, soit il retirait le pneu super tendre, le tendre deviendrait le super tendre, le médium le tendre, le dur deviendrait le médium, et ce nouveau pneu dur deviendrait le pneu dur. C'est pas vraiment changer de fusil d'épaule, ça pourrait convaincre Ferrari et Lotus, qui sont sensiblement les plus réticents à un changement de pneu, puisque la structure resterait la même et le fonctionnement et la philosophie du pneu resterait fondamentalement la même. Et c'est juste
En tout cas, visiblement, ils agissent, parce que pour Bahreïn, c'était pas le pneu médium devait pas y être, et c'est ce qu'ils mettent, c'est ce qu'ils ont annoncé. Alors que théoriquement, les pneus sont là depuis un certain moment à Bahreïn.
C'est-à-dire que vraiment, ils ont compris qu'il y avait un réel problème.
Déjà. Bah, le problème, c'est que quand tu vois les températures qu'il y a eu en Chine et comment les tendres ont tenu, à Bahreïn où on peut imaginer qu'il fasse même encore plus chaud, c'est peut-être ça, vu comment la course s'est déroulée, même si officiellement Paul Embry dit tout va bien, tout est merveilleux, c'est les équipes qui gagnent pas qui se plaignent, donc c'est normal.
Mais après, fondamentalement, quand tu regardes, pour les pneus, il n'y a pas un énorme problème. Au début, c'est vrai qu'on a vite un arrêt. On s'arrête au 4e, 5e, 6e tour. Avant, on s'arrêtait au 7e, 8e, 9e tour et ça ne dérangeait pas plus, quoi.
Oh, quand même.
Donc,
peut-être
une solution, ça serait d'arrêter d'imposer aux équipes de partir avec les pneus qu'ils ont utilisés en qualif et de leur permettre de garder le même mélange qu'avec lequel ils se sont qualifiés, mais de partir, par exemple, en pneus neufs. Ce qui fait que là, on aurait eu des relais. Là, les plus longs relais en pneus tendres, ceux qui avaient des pneus tendres neufs, ils ont été de 7 tours.
Et puis
donc ça aurait permis d'avoir des leaders qui se seraient arrêtés au bout de 7 tours. Au bout de 7 tours, quand même, la course a un peu plus décanté. Donc derrière, c'est un peu plus clair de gagner 2-3 tours, quoi.
Ça, avec une allocation quand même de pneus peut-être un petit peu plus haute quand même. Parce que le problème, c'est qu'ils ont peur, de griller tous leurs pneus et ils roulent pas.
En fait, ce qui me dérange, moi, c'est que vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a plus de stratégie. C'est que tu mets, les tendres à un moment, mais c'est uniquement pour faire 2-3 tours, juste histoire d'eux que tu les utilises et puis t'en débarrasser. On a bien vu l'expérience ce week-end avec Weber, par exemple, où il a fait à peine un tour avec. Et que tout le monde roule avec les mêmes pneus. Donc, t'as les pneus vraiment qui sont plus qualif et que tu utilises après parce que t'es obligé de les utiliser. Puis après, t'as les pneus de course, quoi. Donc, ce qui fait que...
C'est vrai qu'avant, t'avais des mecs qui tentaient des médiums et compagnie ou des durs en milieu de course, même parmi les leaders. Là, ça reste quand même assez prévisible, les stratégies. Même si il y a pas mal, justement, d'options stratégiques. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu trois stratégies différentes dans les 10 premiers, mais vraiment trois vraies stratégies différentes, quoi. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. Faut juste que les équipes trouvent l'équilibre. Et surtout,
l'an dernier, bon, ça avait gueulé, mais au final, on était arrivé quand même à un bon équilibre. Oui. Parce qu'à la fin de l'année, on disait même que finalement, Pirelli avait été un peu pas assez agressif, justement, sur les derniers Grands Prix.
À mon avis, Pirelli n'a pas été agressif, mais c'est dans les choix des pneus qu'ils ont proposés. Mais c'est pas dans les pneus eux-mêmes. Pour moi, les pneus de l'année dernière étaient bien limite. S'ils n'auraient pas changé, ça m'aurait absolument pas dérangé.
Oui, mais le problème, c'est que si tu ne changes pas, les écuries s'adaptent. Et bah ça, oui. C'est ce qu'a toujours dit Pirelli. C'est qu'on est obligé chaque année de se rénover parce que si on ne change pas, bah, les écuries, elles tiennent compte de la conception des nouveaux pneus, enfin, de la conception des anciens pneus, elles les connaissent par cœur. Donc, elles font une voiture qui est vraiment calée pour les pneus. Donc, bah, du coup, tu perds. L'année dernière, l'équilibre est très bien trouvé. On se sera retrouvé avec des pneus finalement pas assez agressifs parce que ils auraient trouvé des solutions pour les économiser et compagnie. Ils auraient vu la conception en fonction de ça. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que les équipes, elles conçoivent leur voiture sans même connaître les pneus. Et ça, c'est aussi une partie de leur faute. L'an dernier, ce qui fait que c'est un peu le bordel cette année, c'est que l'an dernier, depuis plusieurs années, Pirelli profite des essais jeunes pilotes à Abu Dhabi pour apporter ses nouveaux pneus. L'an dernier, les équipes ont décidé de faire bande à part. Il y en a qui sont allés à Silverstone en juillet, à Manicourt en septembre, et d'autres qui sont restés à Abu Dhabi au mois de novembre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Pirelli... j'avais contacté Pirelli à l'époque pour leur demander s'il y aurait les nouveaux pneus. Il m'avait dit mais on peut pas parce que en termes d'équité, il y aurait des équipes qui auraient déjà découvert les pneus à Abu Dhabi et celles qui auraient fait les essais avant n'auraient pas pu les connaître. Donc à un moment donné, c'est aussi des équipes qui se sont tirées leurs pieds, qui ont vu leur intérêt de 2012 en séparant leur programme d'essais privés pour les jeunes pilotes, mais qui n'ont pas pensé à plus long terme et qui se sont retrouvés au Brésil, je crois, ou aux États-Unis à devoir essayer les pneus. Enfin, il était prévu aux États-Unis au début. Puis en fait, ils n'ont pas pu s'en servir. Donc après, ils les ont ramenés au Brésil. Sauf qu'en essai libre 1, on sait très bien que les équipes de pointe, elles les regardent même pas les pneus parce que elles pensent à la course et elles visent la course. Donc ils travaillent sur la course. Donc voilà, finalement, toutes les écuries, elles découvrent plus ou moins les pneus au moment de mettre la voiture sur la piste. Sauf que c'est trop tard. C'est pour concevoir une voiture.
Et encore au Brésil, ils avaient un seul set de pneus durs. Quoi. Donc c'est pas avec un seul set que tu fais une évaluation des pneus.
Bah non.
Je n'ose imaginer. Alors, pour l'instant, ça n'a pas encore été renouvelé, mais qu'est-ce que ça sera l'an prochain? Parce que là encore, Pirelli, quand ils veulent tester leurs pneus, ils ont la voiture, hein, la fameuse Renault. L'an prochain, ils ont dit, hein, ça sera que fait à base de simulation, parce que forcément, comme les voitures sont nouvelles et qu'elles n'existent pas...
Ça va être génial.
Mais c'est même ça le problème. Quand on a Helmut Marko qui sous-entend que Lotus est avantagé, oui, parce que Pirelli utilise la Renault R30, bon, d'abord, la Renault R30 n'a plus grand-chose à voir avec la Lotus 21. Et puis, oui, Pirelli, ils ont cette solution-là. Ils ont trouvé cette solution-là parce que vous avez rien proposé d'autre. Parce qu'à un moment donné, les équipes ont été incapables de se mettre d'accord parce que chacun se dit « Ah oui, ça va l'avantager lui et compagnie ». Enfin, à un moment donné, voilà, faut commencer à se poser la question de qu'est-ce que les équipes, plutôt que de taper sur Pirelli en demandant à changer les pneus et compagnie, il faudrait que les équipes commencent à se dire « Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ». Et pour 2014, il va déjà falloir, et Pirelli commence à le dire,
oui, ils veulent que ça soit fait le
plus
vite.
Que très vite, ils disent à Pirelli s'ils sont là, parce que Pirelli, pour le moment, ils vont pas s'amuser à développer des pneus 2014 si au mois de juillet on leur dit, bah non, en fait, l'année prochaine, on fait Michelin ou on fait Bridgestone. Donc, faut dire à Pirelli au plus vite pour que Pirelli puisse travailler sereinement sur 2014.
Et travailler tôt avec les équipes.
Voilà, c'est qu'ils puissent se mettre d'accord avec les équipes, peut-être pour faire une séance d'essai à Abu Dhabi ou au Bahreïn au mois de décembre, en disant voilà, on se prend deux jours d'essai, nous on vous ramène des pneus, vous les testez, vous pourrez voir vos voitures comme ça, comment elles fonctionnent avec, surtout que derrière, faut se rajouter le turbo, la nouvelle aérodynamique, enfin voilà, il y a beaucoup de changements intégrés en 2014, plus les pneus Pirelli qui changeront encore.
Je sens que 2014, ça va être sympa à voir. Au début, en tout cas.
Donc ensuite, est-ce que tu as une autre actu sur laquelle tu voudrais revenir? T'en restes deux.
Alors, je vais parler, je pense, de notre ami Kubica. Ouais.
Ouais.
Donc moi, j'avoue, pour lui, je suis très content dans la situation où est-ce qu'il est. Il fait du riz et il s'amuse bien. Bon, il me semble qu'il a des résultats tout à fait corrects, quoi. Mais après, vu ce par quoi il est passé avant, il me semble bien qu'en plus sa voiture de rallye est totalement adaptée pour lui, etc. Quoi. Donc, mon avis, quand il a fait son essai DTM, ouais, à mon avis, il a fait des tournois corrects, vu son état. Et pour moi, j'ai des fortes doutes pour qu'il puisse retrouver son niveau qui est déjà physique qu'il avait avant, pouvoir se remettre à piloter sérieusement une F1, quoi. Donc, limite, peut-être faire pilote de développement si jamais il accepte ça, mais ça m'étonnerait que ça aille au-dessus.
Et un troisième thème?
C'est pas le Brésil, mais le chien après, c'était...
Des mesures visant à augmenter la durée des aérostands.
Alors, j'avais dit, donc pas poulet, non pas pour. On a dit, on a beau faire essayer de limiter la performance, de toute façon, les équipes vont essayer d'un moment, d'un moyen ou d'un autre, d'améliorer leur performance. Quoi. Le seul moyen vraiment efficace, ça serait de dire, ouais, votre stand il doit durer 5 secondes, mais on voit totalement que les temps qu'on fait actuellement les zéro stand, bah, ils peuvent ça faire limite à une main. Donc, en fait, je serais plus pour rallonger justement les zéro stands, mais tout en laissant le côté recherche de performance. Un truc je trouverais par exemple nickel, c'est comme ils font en championnat d'endurance par exemple, où là, il me semble que t'as uniquement deux mécanos quoi qui doivent changer à chaque fois les quatre roues quoi. Ça serait quasiment mission impossible de retourner avec en étant premier et restant premier quoi, je dirais.
Alors ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines? Et Dieu sait qu'il y en a eu dont on n'a rien eu à foutre ces dernières semaines.
Ça a été le fait qu'on accuse grosso modo Red Bull de défavoriser Weber en fait. Parce que pour moi quelque chose qui tombe, on va dire, sous le sens. C'est totalement logique qu'une équipe fasse tous en sorte pour que son pilote il soit totalement à la rue, parce que si elle compte que sur un seul pilote, ça peut leur coûter le championnat constructeur, ce genre de choses quoi. Donc c'est comme si on imaginait Ferrari l'année dernière qu'ils avaient fait justement qu'avec la première saison quoi. Donc avec Alonso, quoi, par exemple, ça aurait été, on a dit, ça aurait été pas dans de ça qu'ils s'étaient vus l'année dernière.
Alors ensuite, quelle actualité hors Grand Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Là, c'est mon côté fan qui va parler. Ça serait que Grosjean il retrouve enfin les réglages.
C'est toi, le fan de Grosjean. Mais on est ravis de te rencontrer. Comment ça va? Raconte ta vie. Mesdames, messieurs, après 2 ans de recherche, nous l'avons trouvé. Il est là, il est là.
Ne te moque pas.
Rien ce soir.
Ne te moque pas, j'en parlerai plus tard, mais j'ai une statistique très intéressante sur Grosjean.
J'ai dit, fais du teasing maintenant.
Oh. Surtout pas un truc à 2 balles, mais
Donc tu es fan de Grosjean.
Et ouais.
Mais fan, parce que c'est le pilote que tu préfères ou t'en as d'autres?
Il y en a d'autres que j'aime, mais je préfère Grosjean quand même. Après, il y a un peu le truc qui joue, c'est, je l'avais dit lors du quiz, c'est que je me suis remis à la F1 en début d'année dernière, quoi. Donc ça concordait. Ça aurait eu cette qualif en fait de Grosjean, mais indirectement ma force m'a poussé à regarder le Grand Prix, et c'est par la suite ça s'est enchaîné quoi. Donc
vous le saurez, Romain Grosjean a des fans, hein. Mais les vrais fans quoi, des mecs qui se lèvent le matin en disant, ah ce soir
pas
je regarde
Marion
Romain
Jules.
Grosjean,
voilà,
tu regardes les vidéos totales de Romain Grosjean?
Ouais, je regarde.
Tu passes dans les stations totales pour faire plaisir à Romain Grosjean?
Je sais pas comme Dino, j'ai pas de voiture.
Donc ensuite, au contraire, quelle actualité toujours en dehors des Grands Prix n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines? Et en dehors de Grosjean, pour essayer de se recycler.
Raikkonen qui signe chez Red Bull.
Et pourquoi tu n'aimerais pas lire? Explique-nous.
On va dire que Raikkonen, j'aime bien, mais j'ai pas Red Bull. Donc Donc j'ai personnellement, si je voyais Raikkonen...
Ce garçon a des goûts bizarres. Il est fan de Grosjean, il aime pas Red Bull.
On me dit souvent que je suis bizarre, j'ai l'habitude.
Et donc enfin, quel serait ton drive-thru of the weekend?
La télémétrie de la FIA avec ce qui avait comme conséquence cette flopée de convocations après la course.
Ah ouais, c'est quand ils ont annoncé le truc, j'ai cru que c'était le tirage du loto.
Ça, j'attendais parce qu'il suffit qu'il y ait un moment côté justement ma zone qui il y a le pilote de l'équipe qui soit juste derrière notre voiture, donc qui soit juste avant le point de détection là, à mon avis on va peut-être lui dire, il va peut-être pas forcément écouter, il va pas du tout faire attention, il va se concentrer sur ouais faut que je dépasse etc quoi, et donc ça se trouve passer quoi. Ou alors entre le délai qu'il y ait le drapeau jaune et que la communication se fasse vers les pilotes etc, ça prend peut-être du temps, et donc les pilotes ils étaient pas au courant tout simplement quoi. Pour moi c'est totalement de la faute de la FIA et de McLaren, parce que c'est qui fournissent le système.
Eh ben je ne suis pas d'accord monsieur. Mais non, parce que ce qui fait que je suis pas d'accord, c'est que certes il y a des ratés dans le système de la FIA, mais les pilotes, il y a toujours les systèmes de drapeaux agités il me semble, ou les systèmes le drapeau lumineux.
Oui, il y a les
qui fonctionnent. Ah, oui, oui. Les pilotes ont toujours la mainmise sur le DRS. Donc ça, pour moi, ça veut dire c'est qu'il y a 8 pilotes qui se sont dit bon bah la FIA qu'on a joué un peu le feu, qui se sont dit bon bah la FIA pourra pas le voir, qui ont activé le DRS sous drapeau jaune, parce que le drapeau jaune à un moment donné ils le voient, donc tu sais comme on faisait avant sans la FIA, sans qu'il y ait les diodes sur le volant, les mecs regardaient sur le bord de la piste. C'est ce qu'on leur demande de faire depuis le début de saison, de regarder sur le bord de la piste et d'activer leur DRS en fonction. Mais je pense que sincèrement les pilotes sont un peu responsables de l'utilisation du DRS et que c'est pas juste pour les autres.
Justement avec le système de diode, est-ce qu'ils sont encore habitués à regarder les drapeaux?
Dans ce cas-là, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont prise.
Et donc toi, Shinji, tu as un drive-thru?
Oui, c'est un drive-thru, je dirais peut-être contre les journalistes. Il m'est apparu quand j'ai vu Formula One, j'ai regardé Formula One, qui s'améliore, enfin ça va, c'est regardable. Et non mais on est à la troisième course de la saison et déjà c'est Alonso contre Vettel ou sa variation Vettel contre Alonso. Oui, si vous voulez les gars, en même temps le deuxième du championnat c'est Raikkonen, Hamilton il est que 3 points derrière Alonso, donc c'est encore très ouvert. Mais non. Alors, autant je veux bien avant la saison qu'on dise oui, c'est eux les favoris. Maintenant, la saison a commencé. En plus, on voit quand même que justement, il n'y a pas que Vettel et Alonso qui font le show. Ne vous enfermez pas. Alors déjà que eux-mêmes le font.
Ouais.
Ils n'arrêtent pas de se regarder.
Que ça va peut-être leur jouer.
Non, c'est vrai. ce qui s'est passé il y a 2 semaines, hein, c'est oui, mais il gagne. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre 25 points à Alonso.
C'est pas suffisant, Sébastien. C'est pas suffisant.
On n'est qu'à la troisième course de la saison. Arrêtez, quoi. C'est encore super ouvert. Ils sont encore très nombreux à pouvoir prétendre au titre.
Et moi, j'hésite pour mon drive-thru. Bon, allez, je vais être obligé de... Moi, je vais mettre un drive-thru au conspirationniste. Je comprends qu'on se pose la question. Parce qu'il y a le contexte qui fait que même moi je me pose la question, on dit tiens c'est bizarre voilà, mais à un moment donné il y a à se poser la question et y a croire vraiment,
oui.
Y a faire la théorie du complot. Sincèrement, il y a aucun intérêt
aussi.
Il y a aucun intérêt pour que Red Bull veuille sacrifier une de ses voitures. C'est vrai que Weber a connu un mauvais week-end. C'est vrai que c'est peut-être lié aussi au fait qu'on a le sentiment dans ce qui est ressorti entre avant le Grand Prix de Chine, c'est que visiblement Red Bull a peut-être décidé de laisser ces deux pilotes se battre.
Mais j'irais même, c'est peut-être la conséquence du fait que l'équipe n'est pas sereine.
Oui.
Ce qui lui fait faire des erreurs.
Il y a peut-être aussi le fait que comme ils ont laissé les deux équipes se battre, il y a deux équipes en fait maintenant en une seule. Il y a toujours deux équipes, mais là pour le coup, ils ont vraiment décidé de plus donner de consignes. Donc chacun va chercher à battre l'autre. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un peu de précipitation, notamment du côté de Weber, un manque de sérénité parce qu'il fallait essayer de prouver des choses, de surréagir. Et il y a peut-être eu des erreurs. Mais sincèrement, parler de théorie de complot, c'est juste pas sérieux, quoi. Soyons juste sérieux 30 secondes. Comme l'a dit Shinji, oui, il y a peut-être effectivement.
Bah, c'est pas la joie, ça c'est sûr. Hein,
voilà, il y a, c'est révélateur de quelque chose qui est détraqué au sein de cette équipe. Peut-être aussi du fait que Mark Webber, parce qu'on commence déjà à parler de lui chez Porsche l'année prochaine et compagnie. C'est peut-être aussi que lui n'est peut-être plus trop la tête à ça. Donc voilà, c'est parce que mine de rien, les problèmes ils ont été concentrés sur la voiture de Mark Webber. Donc je pense qu'il y a un problème autour de Mark Weber. Maintenant, de là à dire que ce sont des problèmes intentionnels, il faut juste être sérieux 30 secondes. Red Bull n'a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied comme il l'aurait fait si ça avait été intentionnel. Ils vont quand même pas faire tout le championnat avec une seule voiture en disant, alors les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a fait la panne d'essence, la roue, on va faire quoi? Ah là là. Et si on lui changeait le museau pour mettre un museau de 1983? Vous pensez quoi, les gars? Ah, c'est pas con! Voilà. Vite fait, ils vont tourner en rond, quoi. Donc. Ah, voilà, à un moment donné, soyons juste sérieux, quoi.
Ouais, réglage, c'est bien, c'est un réglage que t'as demandé qu'on t'a mis. Mais enfin, à la poste, tu mets des réglages totalement au pif, qui fonctionnent pas du tout. Ça marche très bien, ça aussi.
Oui, voilà. Attends, là, pour la stratégie, attends, je ferme les yeux, tu mets les pneus, là! Ah merde, le chariot est vide. Bah, tu les mets quand même. Allez, pouf, c'est pas grave. Non, mais l'avantage, c'est que ça nous fait rire, quoi. Voilà. Donc, merci aux conspirationnistes, grâce à vous, on s'amuse. Et ça se trouve, dans 2 ans, on va apprendre qu'il y a un Shanghai Gate.
Il y a un 2013 Gate, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas qu'à Shanghai, c'est pendant toute la saison.
Oui. Non, mais c'est ça qu'en même temps, faut se rappeler, par exemple, chez Ferrari, à l'époque du Spygate, on avait chopé Nigel Stepney en train de mettre, je sais plus quelle poudre, mais il était en train de saboter la voiture. Donc, c'est ça qu'en même temps, tu te dis que peut-être qu'un mec chez Red Bull, Helmut Marko, il rôde dans le stand, il jette un œil sur la voiture de Weber, et il débranche un câble, il dévisse un peu les roues, compagnie. Parce que voilà,
il... Mais bon, faut bien qu'il s'occupe dans le garage.
Oui. Passons donc à la course, messieurs. Et bien sûr, au calife.
Ah, parce qu'il y a eu des qualifs.
Donc des qualifs, hein, qui ont duré 35 minutes au lieu de 45.
Et dire que je m'étais réveillé après, pile pour les qualifs, après avoir regardé les essais libres.
De toute façon, dès le départ, tu le vois, quoi. Enfin, quand tu vois les pilotes qui sont entendre dès la Q1, tu dis bon, bah, c'est bon.
Ouais, le truc surprenant, déjà, c'est que d'habitude, il y a toujours Marussia et Caterham qui sortent faire les premiers.
Là, personne.
Et puis là, même Marussia et Caterham qui tournent pas,
Même sur le muret, en règle générale, ils sont tous quand même un peu au taquet. Là.
C'est la Q2 qui a été intéressante. Parce que la Q2, il y a eu des choses. Il y a eu Vettel qui a tenté un truc, finalement, ça n'a pas fonctionné.
Ouais,
je crois qu'il voulait, rouler avec des pneus usés ou en pneus durs, je sais plus quoi. Et puis il y a les Ferrari notamment qui sont ressortis avec des pneus tendres et qu'on s'est rendu compte en fait que il y a eu le suspense de dire mais dis donc c'est leur troisième train de pneus tendres dans ces qualifs, ils vont plus en avoir pour la Q3 puis en fait ils en avaient encore pour la Q3 donc
surprise.
Mais en fait c'est ça, c'est la Q2 on a cru que ça allait peut-être être intéressant la Q3, puis en fait la Q3 on s'est dit non. En fait non.
Mais il y a eu des trucs bien.
Il y a eu Miss Daisy et son chauffeur. Moi j'ai adoré. Merci, merci Jenson Button.
Ah mais voilà. Quand même dit. Ouais, j'ai fait un temps en 2 minutes 05. Je suis trop fort.
Il y avait quand même la pole d'Hamilton et la première ligne de Raikkonen quand même.
Oui, mais même ça c'est étonnant. Sympa. C'est-à-dire que pour que Raikkonen soit en première ligne, c'est soit que la Lotus a vraiment énormément progressé, soit que vraiment.
Soit qu'il manque des gens devant quoi.
Oui, voilà, il manque les Red Bull.
Je pense plutôt qu'il manque des gens devant. Oui.
Donc en Q1, donc après 10 minutes de Q1. C'est un bon format, ça, c'est intéressant. Voilà, faudrait y repenser. 10 minutes de Q1. Nos deux glands, nos deux guignols.
Hein. J'aime bien la notion de deux glands.
Ça dépend si tu es méchant ou pas. Tu vois, gland, c'est méchant, guignol, c'est plus gentil.
Guignol, c'est quand il y a les français. Gland, c'est quand il n'y a pas le français. Donc on dira souvent guignol, je pense.
Cette semaine, c'est pas guignol.
Ah bon, cette semaine.
Ah bah oui, parce que en la 17e place, c'est Valtteri Bottas, et à la 18e, c'est Gutiérrez.
Oh, mais bravo, Jean-Éric. Bah, je sais pas, Jean-Éric, généralement, il est en Q1.
Mais ça, c'était l'an dernier, c'est quand Gutiérrez n'était pas encore en F1.
Oui, voilà.
Vous savez, Gutiérrez, ce grand talent mexicain. Vous savez, ces grands talents mexicains qui sont en F1, cette année.
Oh, le retournage de veste. Oh, le rêve. Retenez-moi.
Non. Non, il y en a un qui est bon, mais qui a pas le niveau de, bon, en même temps, sa voiture non plus n'a pas le niveau.
Il y en a un dont on se rend compte que c'est pas, le Lewis Hamilton mexicain, quoi. Celui qu'on nous vendait l'an dernier, ils disaient, ouais, vous allez voir, c'est un génie, compagnie, Ferrari fait une grosse erreur, ouais.
Il voulait pas jouer le titre dès sa première année chez McLaren.
Oui.
D'accord. On peut essayer de faire jouer le titre déjà du meilleur mexicain.
Oui.
Et ça, pour le coup, c'est pas dur.
Il va aller à Wimbledon.
Donc, à noter en
Parce
Q1,
que,
quand même.
Il faut noter que Perez est très bon dans le gazon.
En Q1, notons quand même qu'encore une fois, nos deux Français ont devancé leur coéquipier.
Oui. Hein, bien qu'il de la pique.
Donc quoi, même quand ça dure 10 minutes, au final, le résultat de la Q1 ne change pas. Hein.
Comme d'hab.
Voilà. Donc comme tu l'as dit, Jean-Éric Vergne est passé en Q2, où il a fait une magnifique 16e place. Non mais c'est-à-dire qu'habituellement, on aurait pu dire que ça pourrait être bien, mais bon, c'est vrai que cette semaine, voilà.
Cette semaine, non.
Il a dit que sa voiture n'avait pas fonctionné comme prévu. Ça arrive souvent, ça, que la voiture ne fonctionne pas comme prévu.
Et comme l'a cité quelqu'un dans les commentaires, cette magnifique question qu'on lui a posée, vous êtes déçu?
Tant de ma vie.
Je suis super content d'être 16e.
Je suis ému parce que quand j'étais gamin, je rêvais d'être 16e à Shanghai. Je me disais, tu vois, papa, un jour, tu seras fier de moi. Je serai 16e. Et là, je pense à mon père d'ailleurs. Salut papa. Mon père qui doit être chez lui devant son fauteuil avec une larme à l'œil. Papa, je te dédie cette 16e place. J'aimerais qu'un pilote fasse ça un jour.
Devant lui, Pastor Maldonado, 15e. Donc, Mark Webber, il avait fait un temps quand même. Donc, il s'est retrouvé 14e. Sutil, 13. Perez, donc, dont on a parlé, 12e. Et Di Resta, 11e. En Q3, on en a eu deux qui ont pas fait tant, hein. ça rappelle des mauvais souvenirs de l'an dernier, Nicole Kenberg et Sébastien Vettel. Sébastien Vettel qui est quand même sorti, mais on l'a vu justement, il est sorti mais il a pas fait de temps quoi. Ouais.
Non, dans ce cas-là,
c'est juste en fait pour se passer devant ceux qui.
Voilà, tout à fait.
Ils avaient fait ça, il me semble, en Espagne l'année dernière, ils avaient été plusieurs par fois temps, mais il y a plusieurs qui étaient sortis justement, donc c'était dans l'ordre dans lequel ils étaient sortis.
Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes qualifié en fonction de votre meilleur temps. Si vous êtes ex-aequo en temps, c'est le premier qui a réalisé le temps qui est classé devant l'autre. Si vous faites pas de temps, c'est le premier qui est sorti. Et si vous n'êtes pas sorti, c'est le premier qui est resté dans son garage. Mais généralement, les mecs sortent justement pour se dire bon, on sort comme ça, on est au moins à l'abri, on n'est pas dixième, cas où qu'il y en a un qui sort pas. Ouais. Et après, c'est le numéro de la monoplace. C'est-à-dire qu'en fait, Vettel, à la limite, il aurait même pas dû sortir. Il s'est fait chier, qu'il t'a pas roulé.
Oui, mais imagine, Hülkenberg, il sort.
Ouais, parce que, ouais, imagine, à 2 minutes de la fin, t'es avec une fois qui sort juste pour entrer, faire un tour et rentrer au stand.
De toute façon, on s'en fout, parce qu'il y en a un qui a été plus malin que lui. Il a fait un temps 31 secondes plus long que la pole. À une moyenne de 156 km/h à Shanghai. Et vous savez les fameux pourcentages, les 107%, hein, les. Et ben là, il était à 133% de la pole.
Mais ça marche que pendant la Q1, les 107%.
C'est cool, hein. Mais alors là, par contre, ça serait une solution pour éviter que les équipes économisent ou roulent au ralenti. Mmh. C'est de leur imposer de faire un temps dans les 107%, que ce soit en Q1, Q2, Q3. Voilà. Si tu fais pas un temps, t'es disqualifié.
Oui, à chaque fois de la séance.
Voilà. À chaque morceau de séance, t'es obligé d'être dans les 107% de la Q3. Ça obligerait un peu les mecs à attaquer. Après, ils se démerdent en course.
C'est-à-dire, pour vous donner une idée, Van der Garde, il a fait son temps en 1.39 quand même. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que il a vraiment pris son temps en Button. Hein.
D'ailleurs, je trouve que ça faisait vachement bizarre, parce que quand t'avais printemps sur la grille, normalement, Q3, c'est pas rapide que de Q2, qui est plus rapide que Q1, donc les temps sont à peu près logiques. Et là, tu vois, t'avais Button qui était avec son 2 minutes et quelques, et après, pour Vettel et Kenmark, ils avaient remis le temps de Q2, il me semble.
Oui, moi aussi, ça me passait. Mais non, ils ont pas fait de temps. Sinon, devant Button, il y a eu, là, par contre, une vraie bonne surprise, c'est Ricciardo quand même en Q3.
Ouais.
7e temps, quand même.
L'équivalent d'une pole point Toro Rosso, je pense.
Ah, bah, carrément.
Mais je me demande si dans l'ensemble, il a pas fait son meilleur week-end, meilleur qualif et meilleur résultat à l'arrivée.
Ouais, non, il avait fait 6e à Bahreïn l'an dernier.
Ah. Donc le meilleur.
Bah, c'est quand même pas loin, c'est 7. Voilà.
Je dirais même, c'est un bon résultat au bon moment. C'est ce week-end, fallait faire un résultat pour impressionner Red Bull.
Oui,
c'est sûr.
J'ai même envie de dire, c'est pour Jean-Éric Vergne de façon globale, même si finalement c'est Weber qui a été pénalisé, c'était pas du tout le moment de faire tout ça. Grosjean 6e place, ce qui est pas si mal que ça parce qu'il a eu beaucoup de mal tout le week-end. Et là, quand même, d'ailleurs, c'était magique au niveau des déclarations, c'est-à-dire Grosjean qui dit « Oui, j'ai eu du mal avec les réglages, voilà, c'est compliqué pour moi avec la voiture. » Et Kimi Räikkönen qui dit « Bah non, la voiture est super bien, elle a quelques défauts, mais voilà,
ouais, mais je la pilote super bien, il n'y a aucune raison. »
Non, mais non, ce que je souligne, c'est que c'est quand même rare, parce qu'il a quand même taclé Grosjean, c'est rare de voir Kimi Räikkönen tacler un de ses...
Oui, non, mais c'est...
En général, il s'en fout, si tu veux.
Il avait déjà fait ça en Australie, il me semble.
Mais c'est ça où, justement...
Que en Australie, il avait dit, Grosjean se plaignait déjà des réglages, ou je crois que c'était après la course, et qu'il disait, ouais, bah, s'il y a des problèmes, envoyez ça avec lui, c'est pas mon problème.
Oui, mais tu vois,
enfin, il vient de gagner, donc...
Ça, ce genre de réponse, ça va, c'est dire, écoutez, bon, moi, c'est mon coéquipier, mais... Vous vous démerdez avec lui. Mais là, c'est quand même un peu dire, il se plaint tout le temps. Je crois que sincèrement, s'il y a un mec qui est un peu casse-couille sur ses réglages, c'est Kimi Räikkönen, dont on rappelle même que plusieurs fois, il a quasiment pas roulé en essai libre parce qu'il fallait lui régler sa direction. Donc, je pense que sincèrement que Kimi aurait pu tenir sa langue et voilà, c'était pas classe.
Mais je te dis, c'est même étonnant parce qu'en règle générale, pour lui, c'est limite si le coéquipier n'existe pas. Donc, sinon, Felipe Massa a fait 5e. Nico Rosberg 4, Fernando Alonso 3. Donc Kimi Räikkönen, tu as dit, c'est quand même assez étonnant, la Lotus à ce niveau-là, en règle générale, ni lui ni la voiture, c'est pas leur spécialité, les premières lignes.
Et notons, hein, à propos de Massa, qu'il a échoué. Parce que tout le monde se disait, est-ce qu'il va réussir à battre 5 fois de suite Alonso? Ce qui n'est jamais arrivé à Alonso, de se faire battre 5 fois de suite.
Il a pas fait le record.
4, c'est pas mal quand même.
Et Alonso, je sais plus ce qu'il a dit avant le week-end, on lui a demandé s'il s'inquiétait de... Et je sais plus ce qu'il a dit, je mange du riz ou je sais pas quoi. Mais c'était digne de Kimi Räikkönen, mais voilà, on n'en fait pas 3 caisses quoi, c'est dommage. Putain, je vais en faire un t-shirt. Je mange du riz. Voilà, c'est
je
bon,
mange
ça.
Du riz. Et donc, pole de Lewis Hamilton. Sa première avec Mercedes. La 10e pole pour Mercedes et la 92e pour le moteur Mercedes à une moyenne de 207 km/h. Donc, à noter donc que Mark Webber, suite à son problème d'essence, a été exclu des qualifications. Donc, normalement, il aurait dû partir 22e, mais qu'il a choisi de s'élancer des stands. Il a notamment changé sa boîte de vitesse.
Comme, pour avoir des rapports comme, plus longs. Comme ça avait été le cas pour Vettel.
C'est pas Vettel?
Et c'est d'ailleurs même à se demander si ça, c'est peut-être là pour le coup que ça a été intentionnel, mais pour aider Webber, c'est que peut-être qu'ils se sont dit, comme ça a bien marché l'an dernier, il était remonté comme une flèche, peut-être qu'ici, on peut réessayer le coup, c'est-à-dire le faire tomber en panne, on se fait exclure. C'est, sincèrement, là, je vais dans le complot, hein. Mais je vais dans le complot positif. On se fait
oui,
exclure,
voilà,
il peut changer les réglages et tout, et il va faire une troisième, cinquième place, ce qui est déjà inespéré pour nous. Donc peut-être que...
Et il fait le coup de VT à la
voilà, peut-être que c'est encore plus perfide, vous voyez.
Ils sont super forts, chez Red Bull. Passons à la course, Dino.
Oui.
Et passons à ceux qui ne feront pas partie du top 10 cette semaine.
Ah, il ne fera pas partie du top 10, nous sommes bien tristes. Nous ne savions même pas qu'il était en Formule 1. C'est Guido van der Garde. Salut Guido. Un point.
Oui.
C'est bien un point.
Ouais,
surtout quand le vainqueur, il en a 2823. C'est bien un point.
Oui.
Donc,
au moins, il n'a pas zéro.
Donc à toi, cher auditeur, qui a mis un point à Guido van der Garde. Merci. En 21e position, l'homme le plus rapide de Shanghai. Le dégaineur fou. C'est Speedy Gutiérrez, en fait. Avec 22 points.
Mais Speedy Gonzalez, il se prend pas de mur dans les cartons.
Non. C'est un mélange de Speedy Gonzalez et du Coyote.
D'accord.
Ah. En 20e position avec 24 points, nous avons Pastor Maldonado. 10e position, Max Chilton, 28 points. Oh là là, dis-donc Max, c'est la folie! Et la température monte en 18e position avec, en 18e position avec Valtteri Bottas qui, oula, j'ose même pas dire, 52 points, bravo Valtteri! 17e, y a Perez, l'homme qui conduit comme un poisson hors de l'eau. C'est-à-dire, il s'agit dans tous les sens. Et il marque quand même 56 points. En 16e position, nous avons Adrian Sutil, 62 points. En 15e position, ça va m'énerver, nous avons Charles Pic, 64 points. En 14e position, nous avons Jean-Éric Vergne, 110 points. En 13e position, nous avons... C'est son chiffre. Il fallait qu'il soit 13e. C'est Mark Webber, avec 195 points. En 10e position, nous avons l'homme invisible, Nico Rosberg, 229 points, qui est redevenu invisible, là où il avait été très visible quand même l'an dernier. Et enfin, en 11e position, Mister Eleven, il est français, il conduit une voiture avec un peu de rouge et un peu de noir. Mais aussi un peu de blanc. C'est Jules Bianchi avec 297 points.
C'est à noter, parce que visiblement on a beaucoup de fans de Bianchi. Hein. Faut quand même qu'on dise un truc qu'on a pu découvrir avec Dino. Hein. C'est que on dit toujours que le merchandising de F1, ça coûte cher. Non, parce que je le dis, parce que vu qu'il y a beaucoup de fans de Bianchi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller chercher des casquettes, des t-shirts, des polos. Eh bien, il y a une équipe où le merchandising n'est pas cher, c'est Marussia. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, pour le prix d'une casquette chez Lotus ou Ferrari, chez Marussia, vous avez un carton entier de casquettes.
Sérieux?
Alors, sincèrement, on va vous dire, on va vous expliquer. Pour le concours Top Opposition, on va vous en reparler en fin d'émission.
On a un peu écumé.
On a fait la liste complète des cadeaux que vous allez avoir qui vont être distribués jusqu'à la fin de saison. Une liste que vous pourrez retrouver prochainement. On a essayé quand même de se dire, on va essayer de faire des cadeaux un peu différents. Et, naturellement, arrive le moment donné, on se dit, il faudra quand même qu'on offre un blouson. Et on avec Sylvie, on se dit, on va aller regarder chez Marussia, on est sûr que c'est dans le budget.
Oui, c'est dans le budget.
Le blouson de pluie chez Marussia, il est dans le budget. Donc vous allez gagner cette année, ça va être au Canada ou à Silverstone, je crois, un blouson de pluie Marussia.
Pour le même prix, vous avez une chaussette chérie. Une. C'est magique.
Donc quand même à noter,
Non. Parmi nos votes à nous, ceux qu'on a mis mais qui ne sont pas dans le top 10, Dino, tu as mis un point à Mark Webber.
Ouais, parce que, ça a été un week-end noir, mais il avait bien commencé son week-end, il était devant Vettel, il était très costaud, donc voilà, c'était un point pour dire, je t'ai vu Mark, n'aie pas peur, je t'aime quand même, même si tu ne méritais pas de gagner à Sepang, je t'aime quand même.
Rémi, tu as mis un point à Jean-Éric Vergne.
Ouais, parce qu'au final...
Tu es son père.
Non. Non, je ne suis pas le père de Vergne. Non. Non, après, c'est sûr que sa qualif a été terrible du tout. Par contre, il a quand même réussi à faire une assez bonne remontée au final. Donc, Une bonne course dans l'ensemble. Si on oublie un peu l'accrochage avec Weber où on a visé un peu 50-50.
Ouais, ça qu'ils ont été, je trouve qu'ils ont été un peu durs avec Weber parce que pour le coup, certes Weber part de loin, mais là pour le coup, Vergne peut quand même essayer d'anticiper.
Vergne, il bloque quand même pas mal la porte, hein, j'ai l'impression, parce que c'est limite, il se met sur la route de Weber, donc Weber, il peut pas faire grand chose. Au final, pour moi, il fait quand même une bonne remontée, donc la position il part, il finit une place assez correcte, donc voilà.
Et sinon, vous avez tous les deux donné des points à Charles Pic.
Ouais, je vais en parler.
Vas-y, je te laisse.
donc, la qualif comme d'hab, donc après, donc le premier relais, donc on voit pas trop bien ce qui se passe, mais donc le deuxième relais, il est derrière Bianchi. Par contre,
Bianchi. C'est italien, donc le CH, ça se dit qui?
Par contre, c'est bien Max Chilton, hein, c'est pas Max Chilton.
Par contre, donc pendant le troisième relais, c'était Pic qui était devant Bianchi. Il a fini derrière, mais il a fini à 2 secondes seulement. Donc pour moi, il a fait quand même une très bonne performance avec la Caterham, qui on disait que c'était loin derrière les Marussia derrière moi. Donc pour moi, vraiment un plus 1 sur Pic.
Bianchi fait une course bien, mais en face, il y a Pic qui fait une superbe course avec une Caterham qui s'est un peu rapprochée de la Marussia, mais qui reste derrière. Voilà, il le devance et tout.
Il prévoit pas beaucoup de trucs pour Bahreïn, justement.
Oui, bah c'est surtout pour l'Europe où il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais voilà, pour le moment, chez Caterham, il y a pas grand-chose qui a bougé. La voiture est sensiblement la même. Visiblement, elle marchait un peu mieux ce week-end que lors des deux premiers week-ends. Mais voilà, enfin, ça justifie pas qu'on donne, je viens de faire le calcul, 4,64 fois plus de points à Bianchi qu'à Charles Pic.
Faut dire, on a la chance quoi d'en avoir 4, profitons-en des 4 quoi.
C'est sûr, ouais, parce que hier soir j'ai écouté le debriefing F1 de Monsters TV comme d'habitude, et là ils avaient encore que pour Bianchi, et que Pic est quasiment passé à la trappe, quoi, donc ça j'étais un peu dégoûté quoi. Après moi j'espère que ces situations là vont un peu se répéter plus tard, parce qu'avant il y avait soit Caterham qui était loin devant Marussia, ou Marussia qui était loin de devant Caterham, quoi, parce que ça pourrait peut-être donner la possibilité d'avoir un peu de la part de la réalisation, voir les batailles entre Marussia et Caterham qui ont été un peu intéressantes, parce qu'avant
mais c'est ça aussi qui est super dommage, c'est que la réalisation ce week-end on a visiblement eu une grosse bagarre entre les deux,
c'est toujours
et
ça,
on a vu que
dalle
quoi. Donc c'est mais après aussi ça qu'on vous incite à ne pas oublier Pic et à ne pas surnoter Bianchi, mais c'est vrai qu'aussi c'est pas facile d'avoir une vue objective sur leur course. De toute façon, on les voit pas. On les voit même encore moins qu'avant, quoi.
Allez, à la 10e place, il a marqué 310 points. Je vais donner mon dernier 10e point, c'est Romain Grosjean. Moi, je l'ai mis surtout au classement. Et on l'a dit, hein, il a eu un week-end quand même très difficile.
Attends. Alors, on s'en fout de ce que tu vas dire sur Grosjean, Shinji. Nous, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on se demande, tout ce que Rémi se demande, ce que le monde entier se demande, quelle est la statistique que tu vas nous donner sur Romain Grosjean? Dépêche-toi, Shinji, on attend. Allez, Shinji, dépêche-toi.
Faut que ce soit solennel.
T'es pas prêt. Alors, depuis tout à l'heure, tu nous fais languir et là, t'es pas prêt.
Mais si, je suis prêt. Mais il faut être solennel. Il faut être solennel.
Dépêche-toi, poulet.
Après 3 grands prix, Romain Grosjean a parcouru 100% des tours disputés.
Ouais. Et il a marqué 3 fois.
Bravo, Romain. On savait que tu pouvais le faire. Bravo.
C'est... Non mais quand même.
Maintenant, ça serait bien de les faire un peu plus vite, les tours, mais sinon c'est bien.
C'est... Voilà.
C'est ça.
Ce qui fait que Lotus est la seule équipe d'ailleurs à avoir fait 100% de devant McLaren, 337 sur 340. En troisième, t'as Marussia devant Caterham.
En fait, les
devant Toro Rosso.
En fait, ces équipes-là, c'est juste qu'ils ont pas eu les tours, c'est parce que uniquement se sont fait rattraper les premiers, donc c'est à cause de ça.
Ouais. Et non, et après Red Bull n'est que 6e, Ferrari 8e, Mercedes 9e, et les derniers c'est Force India, ils ont fait que 226 tours.
Oui.
Donc voilà, enfin, même moi qui ai mis un point, j'ai pas grand chose à dire. Romain Grosjean, je propose de passer à la...
Non mais ce qui est bien, c'est que c'était une bonne statistique. Moi je sais pas toi Rémi, mais moi je l'attendais, et là je suis content de l'avoir eu.
Passons à la 9e place messieurs, qui s'est pas joué à grand chose, hein, puisque 322 points, c'est pas la différence, c'est pas énorme.
Place.
C'est Paul Di Resta. Je lui ai mis 2 points, Dino, tu lui as donné 4 points.
Ouais, bah, un peu comme toi au classement. Et puis parce que, alors j'ai découvert un truc aujourd'hui, on est passé totalement à côté au Grand Prix d'Australie. On a beaucoup parlé comme quoi la différence entre grosses équipes et petites équipes. Il y a eu un incident, je crois que c'est Sutil qui a foutu dehors Di Resta au début de la course.
Ouais, c'est énorme ça.
Voilà,
donc... Et puis après qui dit, je sais pas pourquoi, tiens, bizarrement, je regardais mon rétro, il était dans l'herbe.
Visiblement l'écurie, je crois que c'est Robert Fernet qui a dit que ils allaient s'asseoir pour discuter avec les pilotes. Et je me disais c'est quand même bizarre parce que c'est un truc ponctuel. Mais en fait non, parce que il y a déjà eu une histoire en Australie. Parce que rappelez-vous, en Australie, Sutil mène la course et derrière il dégringole. Et il se retrouve, finit juste devant Di Resta. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui, c'est sorti à l'époque. C'est-à-dire que les déclarations sont sorties à l'époque. C'est que Di Resta avait, c'est que Di Resta avait balancé à l'époque, je dis ça à l'époque, c'est genre, troisième siècle. Non, c'est il y a 5 semaines. Il avait dit, on lui avait demandé, de rester derrière, Sutil, que voilà, parce que Sutil était pas bien, mais que il aurait pu finir devant et qu'il était énervé. Exactement. ce qu'ont déclaré d'autres pilotes après Sepang. Donc voilà, comme quoi c'est...
En fait, Di Resta a fait le Rosberg de la Malaisie et Sutil l'Hamilton de Malaisie.
Eh ben tout à fait.
Sauf qu'on s'en fout.
C'est ce qui donne aussi un peu de relief à ce duel et ce qui montre qu'un duel entre coéquipiers, voilà, on parle beaucoup de Red Bull, on a un peu parlé de Ferrari avec le début de saison Tony Truant de Felipe Massa, on parle aussi de Mercedes, un peu moins de Lotus, mais à toutes les échelles, le duel fait rage et crée des colères et des incidents en piste et compagnie.
Ouais, parce qu'en plus il disait au début d'année, ouais c'est super, on refait le duo de 2011 qui avait super marché, etc., etc., et tout le bordel. Et puis au final, tu te rends compte que c'est pas si bien que ça au final.
À la 8ème place, il a mené le Grand Prix. C'est Nico Hülkenberg qui a marqué 527 points. Je lui ai donné 4 points. Rémi, tu lui as même donné 10 points.
Alors pour moi, c'est 10 points pour la stratégie qui a permis justement à Sauber de se montrer en bien. Dernièrement, on voyait pas trop Sauber, quoi. Une équipe sympa qui se montrait un peu de temps en temps l'année dernière, qui était en train de faire l'oublier par rapport à Fortinia, quoi. Donc c'est un peu permettre de mettre un peu les échelles à zéro. Et donc et aussi c'est que quand Hülkenberg au début était sur la même stratégie que Vettel, et quand il y avait Hülkenberg qui était devant Vettel, Hülkenberg tenait très bien le rythme de Vettel, donc il a au début même t'avais Vettel qui l'avait rattrapé, qui a réussi à mettre sous portée de DRS, et Hülkenberg a réussi à augmenter le rythme et à se mettre hors de portée, donc au final pour moi, je trouve ça assez bien joué de sa part.
Il faut aussi tenir compte que beaucoup de pilotes, je crois que c'est Grosjean qui avait dit ça, avaient déclaré avant la course qu'il faudrait peut-être même parfois savoir rester à 2 secondes d'un pilote pour pas bouffer les pneus, parce que quand vous restez derrière, ça appuie sur les pneus avant, donc ça les consomme plus. On peut peut-être aussi imaginer que Vettel a justement essayé de maintenir cet écart derrière en disant j'arrive pas à le dépasser, je vais rester un peu loin derrière pour économiser mes gommes.
Allez, 7ème place, il a marqué 610 points. On lui a tous les trois donné 8 points, c'est Daniele Ricciardo. Il concrétise sa bonne qualif?
Ouais, voilà. Mais parce que c'est ce qui est aussi le signe de sa performance, c'est que finalement on l'a pas vu en course. Il était sur une stratégie comme les autres, il a tenu sa place, on l'a pas vu, donc c'est le signe qu'il a bien roulé, que la monoplace était bien ce week-end. Il s'est pas fait remarquer en bien ni en mal, il a fait son boulot et c'est après tout c'est ce qu'on leur demande aux pilotes.
Ça a été assez tranquille en fait, j'ai l'impression que ça a beaucoup bougé autour.
En fait, Ricciardo pour moi fait une
et lui, il est resté sur son truc.
Une course à la Rosberg, quoi, il a fait un départ correct, puis après il a continué son petit bonhomme de chemin, puis il s'est retrouvé au final à la position où est-ce qu'il est parti. Donc
voilà, ça bouge autour de lui, mais lui voilà, il était sur son cap.
À un moment il me semble qu'il réussit a fait un joli dépassement sur il y a Grosjean qui déplace je sais plus qui, il me semble, je sais plus. Je crois que c'est une Hülkenberg d'ailleurs. Et que il y a Ricciardo qui a réussi juste après dépasser
Hülkenberg
et Grosjean, ouais. Voilà, Grosjean d'un coup, qui était quand même une assez jolie manœuvre.
Putain, je lui rajoute 2 points pour la peine.
Ça changera pas son classement.
Au moins j'aurai la conscience tranquille,
c'est
dit.
À la 6e place, c'est un autre pilote de la même filière, mais lui qui est un tout petit peu plus huppé. Il a marqué 1088 points, c'est Sébastien Vettel.
Alors là, c'est l'inverse de la fanbase. Alors, sincèrement, là, je sais pas vous, mais moi, la 6e place de Vettel, quand j'ai vu le classement, what the fuck?
C'est vrai que, oui, voilà, 5-6, je me suis dit.
À un moment donné, non.
Pour moi, non, ça vaut pas, quand même.
Parce qu'en effet, faut dire, moi, je lui ai donné 12 points, et vous deux, vous lui avez donné 15 points chacun.
Pour moi, c'était un vrai pari de faire le départ en pneu dur, et puis qu'au final, ça a très bien marché, parce qu'il a réussi à très bien remonter, il était même pas loin d'arriver sur le podium, donc au final, il a fait vraiment
très bien. C'est sûr que... un tour de plus.
Ouais. Il était vraiment bon. Dans les échappements d'Hamilton.
Ah oui.
Il fait pas la petite faute qu'il fait au virage. Je crois que c'est le virage 11. C'est le virage juste avant le banquier où il fait une petite faute. Il part un peu en glissade et il perd un peu contact avec Hamilton. Il a d'abord une chance avec Hamilton dans la ligne droite où il a de bonnes chances de le dépasser. Ou alors derrière il peut essayer d'avoir un freinage ou dans les virages derrière.
Plus vite.
Donc ça s'est joué à rien cette 3e place.
Et pourtant, Hamilton s'est fait quand même vachement gêner par la Caterham qui était devant. Donc,
Oui.
D'ailleurs, j'étais surpris qu'il n'y ait pas eu de déclaration à propos de cette Caterham après. Bon, en tout cas, j'ai pas vu.
Bon, il a pas perdu de place parce que s'il avait perdu des places, il se serait plaint. Mais là, il n'y avait pas de place en jeu, donc. Parce que généralement, c'est les équipes qui viennent se plaindre pour quand il y a une gêne.
Oui.
Mais non, Vettel, moi je l'ai mis 3e. Dans mon classement, j'ai mis une prime aux stratégies et voilà, il a essayé quelque chose. Il était conscient. Enfin, il a essayé avec Red Bull. Voilà, on est face à une équipe et un pilote qui était conscient des capacités de sa monoplace, qui était conscient des capacités des pneus et qui a décidé de faire autre chose.
D'ailleurs, justement, vous la trouvez comment cette Red Bull ? Parce que bon, autant, bon, il y a 2 ans, elle dominait tout. L'an dernier, c'était déjà plus tangent. Enfin, voilà, elle a eu quand même... il a fallu aller jusqu'au bout pour gagner le titre.
Elle est rentrée dans le rang, on va dire.
Ouais.
Moi cette année, je pense surtout
j'ai l'impression.
La voiture est rapide, contrairement à l'an dernier, il y avait un problème de c'est pas un problème de conception mais la voiture était pas assez performante. Là cette année, la voiture elle est rapide. On l'a vu en qualif. C'est vraiment un problème dans l'exploitation des pneus.
Ça a l'air plus difficile quoi, pour Red Bull. Ça les empêche pas de faire des bons résultats mais on sent que faut qu'ils aillent les chercher.
Et c'est peut-être là aussi où la bisbille entre Vettel et Weber va coûter cher à Red Bull, c'est que dans ces situations-là, il faut vraiment que l'équipe travaille en union pour se redresser, ce qu'ils ont fait l'an dernier en ayant des voitures différentes, en partageant leur expérience et compagnie. Sauf que là, dans la situation, Red Bull peut pas se permettre. Enfin, c'est inenvisageable que Red Bull aujourd'hui dise bon, on va essayer un truc sur une voiture puis un truc sur l'autre, parce que dans l'esprit des gens, ça serait avantager l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est ce qui va peut-être bloquer Red Bull. C'est de pas pouvoir tester des choses, tester de nouveaux réglages et compagnie de façon trop visible.
Rien à rajouter sur Vettel?
Non, ah non, moi sincèrement, alors j'ai envie de dire à Sébastien, si tu m'écoutes, s'il te plaît, la prochaine fois, à Sepang, tu dis ce que t'as dit ce week-end à Shanghai. Parce que à Sepang, tu t'es excusé, tu as fait le mec contrit. À Shanghai, t'es arrivé, tout le monde attendait à ce que tu sois Timor et compagnie. Non, t'as joué le mec décomplexé.
Pas du tout.
T'as tapé sur Marc, t'as dit oui. T'as dit au début, j'ai pas compris la consigne, mais après, j'ai compris. Et de toute façon, j'estimais que Marc méritait pas. T'es rentré dans l'art. C'est ce qu'il fallait faire à Sepang. C'était assumer le truc. Et je suis un peu d'accord avec ce que disait Alain Prost dans Formule One. Putain, comment je peux oublier ce nom?
C'est pas compliqué quand même comme titre. Hein.
Et avec la petite nuance, c'est que lui, Alain Prost, disait que bon, ça manquait un peu d'élégance, que il avait dit ce qu'il avait à dire sur la piste et que ça manquait un peu d'élégance d'enfoncer le clou derrière. Moi, je dis que ça manque un peu d'élégance d'enfoncer le clou 3 semaines après derrière. Il aurait dû le faire direct derrière, de dire, écoutez, moi, je dois rien à Marc. Il m'a jamais aidé. J'estime qu'il m'a jamais aidé. C'est sa vision. Après, ça se discute, mais il aurait dû le faire sur le coup. Donc voilà, la prochaine fois, Sébastien, t'envoies du pâté comme ça, mais direct à la fin du Grand Prix, quoi. Donc, si jamais, Sébastien, tu m'écoutes, je t'aime, Sébastien. Viens chez Ferrari.
Ah ben, ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un pilote Ferrari. C'est Felipe... si, quand même.
Ça reste à prouver.
Ferrari, Felipe Massa. Il a un contrat Ferrari. Il y a un cheval dessus. Il a marqué 1226 points. Moi et Dino, on lui a donné 6 points. Rémi, tu lui as donné 2 points.
Classement. À part le plus.
Ah, c'est vrai que ça commençait bien. Et puis alors, il y a eu le premier arrêt et lui, il l'a fait un tour plus tard. Et c'était fini.
C'est ça. J'ai eu l'impression de revoir l'Australie.
D'ailleurs, ça a été aussi un peu la même chose avec Grosjean. On l'avait pas dit, mais c'était un peu pareil. C'est les deux. Voilà. C'est au premier, ils ont fait un arrêt un tour plus tard.
Et on mais c'est ce qui apporte aussi, il y a peut-être un élément de réponse sur le fait que Massa était très fort en qualif depuis le début de saison et qu'en course, il s'effaçait un petit peu. Il a expliqué qu'en fait, il a commencé en pneu tendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'une fois qu'il a passé les médiums, la voiture fonctionnait plus aussi bien. Et qu'il y avait un problème sans doute avec son pilotage et compagnie. Et on peut se demander si, contrairement à Fernando, qui peut-être a un meilleur compromis tendre et médium, qui fait qu'il est un peu moins rapide en qualif, mais un peu plus constant en course, là où Massa travaille peut-être un peu plus sur le pneu le plus tendre, ce qui fait qu'il est un peu plus rapide en qualif, mais du coup qu'en course, à un moment donné, ça s'effondre. Et c'est ce qu'on retrouve aussi avec Grosjean, qui était très content de sa voiture en qualif, et qui en course en était plus content. Normal, il a fait la plus grande partie de la course avec les pneus.
Il était rassuré.
Oui, non, voilà, non, mais à un moment donné, enfin, voilà, la sixième place, c'était quasiment une pole pour lui. Hein. Donc, voilà, donc c'est, il y a peut-être aussi cette explication-là. C'est peut-être aussi que ce sont deux pilotes qui sont plus à l'aise avec un type de pneu et qui travaillent peut-être un peu trop avec ce type de pneu-là, là où leurs coéquipiers sont peut-être un peu plus dans le compromis. En tout cas, c'est l'explication que j'aurais pour le duel Alonso-Massa, où c'est vrai que Massa nous a surpris en qualif, mais en course, il nous a toujours un peu déçus depuis le début de saison. Et là, ce week-end, il nous a franchement déçus.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, quand tu regardes, il fait 4 en Australie, 5 en Malaisie et 6, donc normalement, Bahreïn fera 7. Hein. On va aborder la quatrième place déjà, avec l'autre filou de la stratégie, c'est Jenson Button, 1326 points. Dino, tu l'as mis deuxième.
Ah, bah
moi,
ouais.
je l'ai mis cinquième. Rémi, tu lui as donné ta septième place.
Sa stratégie, en fait, je l'ai pas vu, donc... Ça m'a pas trop marqué, quoi, donc au final, en fait, je savais qu'il fallait que je le mette, parce qu'il a fait quand même un bon truc avec la McLaren, mais j'ai beaucoup hésité sur la place de Button, en fait. Ou je pense que j'aimerais bien Hülkenberg et Button, par exemple.
Et en effet, lui, il n'a fait que 2 arrêts.
Ils sont que 3 à avoir fait cette stratégie-là. Il y a lui, il y a Perez et il y a Bottas. Si
Perez a fait un petit différemment de Button, qui Button lui a mis les pneus soft à la fin, il les a mis au milieu. Ouais.
Oui, Perez, les amis.
À la fin.
On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Oui. C'est des fois McLaren, des fois, ils sont, mais super tendre.
Enfin, en même temps, Perez, ce début d'année, on sait pas trop, de façon générale, ce qu'il fait, donc, faut qu'il se ressaisisse. On lui a dit.
Faut qu'il s'excuse moi en piste.
Donc ça, c'est la façon polie. En réalité, c'est qu'on lui a dit, Sergio, viens dans mon bureau, et on lui a dû lui gueuler dessus pendant un quart d'heure en disant, bouge-toi le cul, vu le prix qu'on te paye.
C'est plutôt lui qui paye McLaren.
Voilà, comme quoi, il était possible de tenir avec, enfin, voilà, de faire 2 arrêts. C'était possible.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on parle, quand on trouve dommage qu'on ait demandé au pilote d'économiser les pneus, finalement, quand on regarde le Grand Prix, celui à qui on a le plus demandé et celui sur lequel on a le plus insisté, c'est Button. Les autres, finalement, ils ont économisé, mais pas plus qu'à l'habitude, j'ai envie de dire. Là, c'est surtout, là où c'était très criant, c'était Button. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette stratégie-là? Et c'est pas à cause des pneus. C'est parce que la voiture leur permettait pas de rivaliser à armes égales avec les autres. Donc, ils ont décidé de tenter une stratégie à 2 arrêts. Donc, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette position-là. Quand on entend Martin Whitmarsh dire derrière, la course était atroce et compagnie, c'était le danger, le danger du pilote. Oui, mais tu as mis ton pilote dans cette position-là. Tu l'as mis sur la défensive. Tu l'as mis en danger. Parce que c'est, je reprends les mots qu'il a dit, qu'il s'était inquiété. Tu l'as mis en danger volontairement parce que ta voiture n'était pas assez bonne pour être sur une stratégie équivalente aux autres. Pour avoir un meilleur résultat, tu as pris le risque de mettre tes pilotes dans une situation délicate où Perez a sombré comme pas possible et où Button a fait une course absolument somptueuse.
Avec ce moment brosse à reluire, hein, quand même, où à la radio il dit « Oui, Hamilton est derrière moi, est-ce que je protège ou pas ?» Et là tout de suite « Ah, vous voyez, hein, ça, c'est de l'intelligence de course !»
Mais c'est vrai qu'il a passé tout son week-end à demander des informations, à être en interaction avec le Murray. C'est sûr que c'est pas ce qu'on attend de voir d'une course de Formule 1. À ce point-là, de tous les pilotes feraient ça nous saoulerait.
Oui.
C'était tellement bien fait. C'était juste. C'est là où on voit les qualités de Button. C'était qu'il prenait le pouls de sa voiture, il prenait le pouls de ce qui se passait au stand. Il allait au renseignement. Il faisait sa course vraiment avec son équipe. Et moi, j'ai trouvé ça. Si on isole la course de Button, j'ai trouvé que c'était absolument splendide. Voilà. J'aurais pas eu Alonso. Sincèrement, je crois que je l'aurais mis premier. Je crois que j'ai mis Alonso parce que c'était un peu Alonso. Mais voilà. Pour le coup, c'est vraiment l'illustration à l'extrême. Des qualités qu'on peut aussi attendre d'un pilote. Il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup de sang-froid, ce que n'a pas Perez parce qu'il est aussi un peu fougueux, que il est aussi très jeune, il n'a pas l'expérience qu'a Button. Voilà, Button ça a marché magnifiquement quoi, et c'est juste le regret de se dire bon bah ce mec-là il serait capable de faire ça à chaque course sur une stratégie identique aux autres avec une meilleure voiture et d'en tirer un avantage.
Maintenant abordons le podium avec à la troisième place. Il a fini troisième. Oui, il a fini troisième. Ça ne s'est pas joué à beaucoup, mais il était sur le podium. C'est Lewis Hamilton avec 1605 points. Je l'ai mis troisième. Rémi l'a mis quatrième. Et Dino l'a mis cinquième.
Oui, bah, comme j'ai promu Button et Vettel, pour la stratégie, oui, forcément, ouais, Raikkonen bon. Et Hamilton tombent derrière. Mais Hamilton, il fait une super course. Hein. J'ai même hésité à le mettre devant Raikkonen, parce que c'était assez étonnant même qu'il arrive à tenir aussi longtemps derrière Raikkonen, alors qu'on sait que les qualités de la Lotus. Et bon, bah j'ai laissé Raikkonen devant parce qu'il y avait l'histoire du museau, je pense qu'on y reviendra. Mais sinon, il fait une très bonne course. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le site fanf1.com, dans les commentaires, j'ai dit, c'est au lieu de demander à voir Hamilton avec des pneus en bois où il pourra taper dedans et compagnie et montrer son style légendaire, de pilote attaquant et compagnie à fond. Il faut aussi apprécier que ce mec-là, il y a 3 ans, on disait mais il va souffrir avec les pneus Pirelli, et qu'aujourd'hui il est capable de faire des merveilles avec ces pneus-là qui sont pourtant qui conviennent pas à son style.
Et sur la Mercedes, enfin je veux dire quand tu penses à ce que c'était l'an dernier, là voilà il fait une super.
Voilà, alors c'est vrai que bon la Mercedes a beaucoup progressé dans ce secteur-là, mais il faut aussi ne pas le réduire seulement à un pilote désolé mais bourrin attaquant qui tape dans les pneus. Mais aussi souligner que c'est un pilote extrêmement intelligent qui a su adapter son style de pilotage aux pneus tout en gardant suffisamment d'attaque pour faire des pôles et compagnie, parce qu'il en a fait quand même quelques-unes avec les Pirelli. Il a gagné des courses avec les Pirelli, donc il a su garder suffisamment de son sens de l'attaque tout en essayant aussi de trouver un meilleur compromis pour gérer les pneus. Là il nous montre vraiment toute la palette de son art quoi, il a une super belle palette.
Ouais, avant on voyait Hamilton comme un pilote qui était bourrin, agressif et c'était tout, alors que maintenant, il nous montre qu'il sait qu'il y a des moments pour attaquer et des moments pour gérer.
Même par le passé, agressif dans le mauvais terme. C'est-à-dire, parfois, il débranchait le cerveau. Alors que, prouvez quand même que, même l'an dernier, il n'y a pas de souci. Enfin, cette année, en tout cas, il n'y a pas de souci avec Hamilton. Il pilote vraiment, peut-être tu parles, la sérénité, l'âge, le fait d'avoir changé d'environnement.
L'an dernier, ses problèmes, ça a été plutôt dû à la fiabilité de la McLaren plus qu'autre chose.
Moi, sincèrement, c'est ce qui fait que j'aime de plus en plus Hamilton, c'est cette capacité qu'il a eu de changer, de se remettre en cause, que ce soit lui-même, mais que ce soit aussi dans son pilotage et dans sa gestion de la course.
Ouais, puis il s'est pas démonté comme tout le monde quand il a été critiqué de toutes parts quand il a quitté McLaren, quoi, et qui maintenant doit bien, à mon avis, être vachement content de son pari qui est vachement prometteur d'ailleurs.
Alors c'est pareil, il est content pour le moment. Faudra voir au bout de la saison.
Tout va bien, ça que je dis prometteur pour l'instant. Même si apparemment il a dit son objectif c'est le titre pour l'instant.
Mais sinon sur la course il s'y attendait de toute façon dès les qualifs, il disait attention pour la course de demain, je pars en pôle mais ça va être compliqué, et c'est vrai qu'avec Raikkonen à ses côtés, c'était la pire nouvelle pour lui, c'est d'avoir Raikkonen en première ligne. Bon finalement ça n'a pas été un gros problème. Le problème ça a surtout été Alonso. Voilà, à un moment donné il peut rien faire, mais il fait quand même une superbe course. Moi je m'attendais même à ce qu'il soit plus bas et finalement il arrive à tenir même par rapport à un Massa qui pourtant peut-être une meilleure voiture, un meilleur compromis. Lui, il a trouvé, justement, un peu comme Alonso, ce compromis entre les qualifs et la course, et il a réussi à trouver un équilibre avec sa voiture.
Est-ce qu'on peut faire un bon résultat en F1 en ayant un coup dans le nez? Eh bien oui! La preuve avec Raikkonen, qui a fini deuxième avec 2052 points.
Mais Kimi fait toujours ses courses avec un pull dans le nez.
Je l'ai mis deuxième, comme Rémi. Dino, tu l'as mis quatrième. Oui.
Alors je rappelle pour ceux qui prennent en cours de route, c'est parce que j'en ai promu deux autres pour leur stratégie. Et j'aime beaucoup Kimi, il a fait une bonne course. J'ai derrière dit. Ne me frappez pas.
Alors selon Lotus, ça lui aurait fait perdre quand même un quart de seconde au tour. Ouais.
J'ai entendu une vidéo, où en fait ça reprenait les conversations que Raikkonen avait eues avec son équipe pendant la course. Et apparemment, pendant le premier arrêt, il était d'accord pour pas changer. Et pendant le deuxième arrêt, il avait demandé à ce qu'on le change, en fait, apparemment. Et ouais. Que, justement, à mon avis, il était vachement surpris. Ah, bon, non, on fait juste que rajouter de la pierre dynamique, mais c'est tout, quoi. Donc,
mais après, c'est pareil, c'est-à-dire que, aussi, c'était aussi... Alors après, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils chercheraient. Bon, si c'est pas étonnant qu'ils puissent perdre un quart de seconde dans cette affaire-là. Mais après, il faut aussi compter que s'ils s'arrêtent au stand pour changer de museau, ça va être plus loin. Il va se retrouver derrière d'autres pilotes. Donc, là, d'un coup, la course, elle change, quoi.
Il y avait le risque, en fait, de se retrouver derrière... Hamilton, et donc par le bénéfice d'un arrêt précédent, ils avaient réussi à le doubler grâce au centre.
Dans les calculs, il suffira pas pour voir de dire bon bah alors là ça fait une seconde perdue tous les quatre tours. Si on fait sur toute la distance de course, je sais pas, il a perdu 10 ou 12 secondes, il aurait pu se battre pour la victoire, parce qu'il faut compter que s'il s'arrête, effectivement il est derrière Hamilton et qu'il va perdre du temps, et que ou alors faut qu'il dépasse très vite. Enfin voilà, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Alors qu'Hamilton il n'a pas réussi à le dépasser pendant un bon bout temps, donc en position de course, Hamilton, Raikkonen n'a pas réussi à dépasser Hamilton, donc
il était dans le rythme, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont perdu du temps, mais il est quand même resté complètement dans le rythme, malgré un trou quand même qui était bien gros. Plus, il y avait une partie quand même qui justement avec l'appui de l'air se relevait, c'était très drôle, t'avais l'impression qu'il avait un réticule de visée avec le logo Lotus. Alors par contre, il y a un truc qui l'a foiré, mais apparemment ce serait peut-être pas forcément de sa faute, j'ai pas vu les déclarations, c'est le départ.
Il a dit que ça avait été aussi à l'origine d'un mauvais départ à Sepang, donc il faut se demander si c'est pas un problème dans toutes les estimations de l'embrayage et compagnie. Peut-être qu'il y a une procédure à revoir chez Lotus.
Fin de la course, il y a l'équipe qui s'est excusée auprès de Raikkonen pour les réglages du départ, il me semble. Donc.
Et sinon, avec le choc avec Perez, il n'y a pas eu de sanction. C'est du 50-50.
Parce qu'au final, c'était pas un endroit spécialement où tu peux t'attendre à quelqu'un qui passe à ce niveau-là. Ça m'a fait un petit peu, avec le recul, ça m'a fait un peu penser avec l'histoire entre Weber et Vergne, où il y a Raikkonen qui part quand même de loin. Donc.
Ouais, puis moi je sais que c'est ce que j'ai dit sur Fan F1, c'est que à la limite j'ai plus envie d'être méchant envers Vergne, qui pour le coup ne peut pas être surpris de voir il sait qu'il y avait Weber derrière lui, il se doute que Weber est plus rapide, donc il peut pas être surpris qu'il y ait un pilote qui cherche à le dépasser à l'intérieur. Là dans ce virage là, c'est quand même une épingle assez serrée où pour rentrer on se met vers l'extérieur pour arrondir la trajectoire. Donc on peut comprendre que Perez n'anticipe pas forcément l'attaque de Raikkonen en disant bon bah c'est la ligne idéale. Généralement le pilote qui dépasse, il prend pas la ligne idéale, il prend justement une ligne alternative pour se glisser à l'intérieur ou à l'extérieur en fonction du virage, mais il prend pas la trajectoire. Et c'est toujours un peu le problème, c'est que c'est aussi à l'attaquant de faire attention et de s'assurer que la manœuvre qu'il tente, elle va passer. Si elle ne passe pas, faut pas qu'il l'attende, parce qu'il y a un risque pour lui et pour l'autre pilote. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a pas eu de sanction.
D'ailleurs il y a un truc qui m'a choqué, c'est Villeneuve après, en reparlant de ça, qui a dit oui, parce que maintenant on considère en gros qu'un dépassement est fait quand les roues avant du poursuivant sont à hauteur des roues arrière.
Non, le dépassement n'est pas fait dans ce cas-là.
Tu
n'as juste pas le droit de refermer la porte, enfin de te mettre sur le côté.
Parce que sinon, il y a beaucoup de dépassements qui seraient considérés comme faits.
Mais c'est pareil, enfin. Villeneuve, évidemment, il a une dent contre Perez. Faut aussi qu'il arrête tout le week-end de dire que Perez résiste pas à la pression. On peut aussi comprendre que pour Perez, le début de saison soit difficile. Il arrive quand même pas dans les meilleures conditions chez McLaren.
Il s'attendait pas du tout à avoir une voiture de ce niveau-là, parce que l'année dernière, t'avais la McLaren qui marchait comme du tonnerre, quoi, puis en fin d'année, quoi. Donc il disait, ça va être, grosso modo, la même chose, mais amélioré, quoi. Donc j'ai aucun souci à ça.
S'ajoute en plus le fait que,
mais alors c'est ça le truc, ils s'étonnent que les autres n'aient pas fait comme eux, c'est que eux ils ont changé le concept de leur voiture, visiblement. Alors que tous les autres ont fait des grosses évolutions, quoi.
Ouais, parce que moi, je trouve ça totalement con de changer le concept de la voiture, justement, la dernière année du V8, quoi. Parce qu'à mon avis, pour le V6, il y a toutes les voitures, les écuries vont changer le concept de la voiture.
Non, mais justement, quoi. Parce que, en fait, l'un des plus gros changements sur la McLaren, c'est les suspensions, qui sont les suspensions à tirant, comme sur la Ferrari. Et en fait, Gus Gus nous avait expliqué ça l'an dernier, avec les nez plus bas qui sera en vigueur l'année prochaine, c'est-à-dire que les problèmes qui sont occasionnés aujourd'hui par les suspensions à tirant à l'avant se présenteront beaucoup moins l'année prochaine puisque le museau sera plus bas. Bon, là l'un des problèmes, c'est notamment l'accessibilité pour les réglages qui rend les trucs compliqués, donc voilà, c'est assez dur à régler. Ça se posera pas l'année prochaine, donc c'est aussi une anticipation sur ce qui pourrait se passer l'année prochaine. C'est un risque qu'ils ont pris et c'est aussi l'ambition, c'est ce qu'a expliqué Button, l'ambition de se dire on aurait peut-être pu progresser avec la voiture l'an dernier, maintenant on a décidé de s'offrir une plus grande marge de progression. Le problème, c'est que certes ils ont une plus grande marge de progression, mais ils sont revenus sacrément en arrière. Donc il faudra vraiment mesurer à la fin du compte si vraiment ils ont vraiment eu une plus grosse marge de progression avec ces innovations. Quand on voit sincèrement les progrès qu'ils font là depuis 3 Grands Prix, on peut quand même être confiant et ne pas tout complètement remettre en cause leur philosophie, parce que mine de rien, ça avance plutôt pas mal. Et donc toi, Shinji Raikkonen, raconte-nous l'accident. Comment tu l'as vécu?
Pour moi, c'est de l'incident de course, donc ça m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de sanction, parce que c'est vrai que, comme on dit, il est un peu passé par le chausse-trappe. Oui. Je me dis, parce qu'on a dit que Perez avait un peu tassé, je me dis, même sans le tasser, je pense qu'il aurait quand même fait un peu la tondeuse.
Il était peut-être même plus dans l'intérêt de Perez de rester à l'intérieur et de garder l'intérieur.
Mais
pour,
c'est ce que je pense.
Voilà, donc si vraiment, alors peut-être qu'après, effectivement, Perez a débranché son cerveau, ça lui est déjà arrivé, mais il aurait été plutôt dans son intérêt de faire l'intérieur. Lui, il a dit qu'il n'avait pas vu grand-chose. On sait très bien que c'est une excuse qui est souvent avancée.
Dans la situation là, la situation du virage là, ouais, pour moi, c'est totalement valable parce que limite, à mon avis, il a peut-être pu penser à une manœuvre d'intimidation. Un peu avant la zone DRS, quoi, mais c'est tout.
Oui, et puis à cet endroit-là, le réflexe du pilote, c'est de regarder sur sa droite, pas sur sa gauche. On peut comprendre que ça le surprenne qu'il passe sur la gauche dans ce virage-là. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a quand même deux accidents dans ce virage-là, et deux accidents pour moi qui sont en partie dus aux pneus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les pilotes sont le couteau sous la gorge avec les pneus, on peut plus se permettre de perdre comme on pouvait avant, perdre 2-3 virages derrière un pilote. Aujourd'hui, il faut passer tout de suite. Si tu passes pas, tu vas commencer à avoir un peu de graining derrière et compagnie. Tu vas commencer à bouffer tes pneus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les pilotes de pointe sont de plus en plus pressants et veulent de plus en plus passer en force.
Il a marqué 2823 points. On l'a tous les trois mis premier. Fernando Alonso.
Il a fait un très bon départ. Après, il a réussi très rapidement à doubler Hamilton. Puis après, piste claire, il a géré très bien ses pneus, aucun souci.
Un peu à l'image de Raikkonen en Australie. Voilà, quand tu regardes le film de la course a posteriori, tu dis ça pouvait pas lui échapper, quoi. On n'a pas l'impression que il a vraiment été menacé. Il a fait sa course, tout fonctionnait bien. Et ça n'a pas été parfait sa course parce que dans les stands, par exemple, ils sont pas super rapides. Voilà, mais ils avaient ménagé suffisamment de marge pour justement ne pas être parfait.
Derrière, ils se battaient plus ou moins, donc ils faisaient pas trop attention à faire des bons chronos, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, au final, de très bons chronos. La seule occasion où on l'a entendu, c'était quand son équipe l'a appelé. Ouais, fais attention, attaque pas trop. Ah, mais j'attaque pas, quoi. Pour moi, ça résout la solution, c'est que là, il était limite en problème de santé.
C'est un peu comme la victoire de Rosberg l'an dernier. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est justement, c'est qu'on avait, pas trop vu Rosberg.
Ah oui, je me souviens.
Il avait été devant et qu'il n'y avait pas eu grand chose, quoi, par rapport à Rosberg.
Je me souviens en plus des déclarations d'après podium de cette année-là. C'est qu'il disait podium, t'avais les deuxième, troisième qui disent, j'ai pas arrêté de doubler, moi aussi j'ai doublé, je sais pas, une dizaine de fois. Et Rosberg, moi, j'ai doublé personne.
Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la durée totale de course, je crois que par rapport à l'an dernier, elle est 3 dixièmes plus rapide ou 3 dixièmes plus lente, mais voilà, il n'y a que 3 dixièmes de différence entre les deux courses, quoi.
C'est abusé, quoi. J'ai vu cette affaire, mais what the fuck, quoi. Même en voulant faire la même chose...
Non, il ne serait pas arrivé.
Passe au classement.
Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus sur la course d'Alonso. Je t'aime, Alonso.
au classement.
Est-ce que oui. On pourrait se demander si Fernando est responsable d'un truc, mais il a
non,
rien fait. Il a été victime de rien.
Il a pas rien fait. Stand, il a tout bien fait. Nuance.
Oui, voilà.
Avec toujours le
qu'on cite son nom,
c'est
le
bon. Petit geste très voilà, comment me faire aimer des fans de chez Ferrari, bah je prends un drapeau avec le cheval cabré.
Oui, et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la photo de la victoire, alors que c'est quand même normalement le moment d'Alonso, il y avait Filippino, il y avait le fils de Felipe Massa, que tu en plein milieu de la photo, de toute façon on voit que lui, c'est le seul qui est pas habillé en rouge. Alors il va peut-être falloir lui offrir un maillot de la Scuderia, quoi, c'est mais voilà, c'était mignon, quoi. Et ça fait aussi partie de l'image de Ferrari qui véhicule une image de famille et compagnie, voilà, c'est aussi de la com.
D'ailleurs, en parlant de photos, je sais pas si vous avez vu la photo de Lotus. Il y a Grosjean dessus.
Ah, c'est bien, il y a du progrès.
Mais il fait une de ses tronches et vraiment tout au fond, hein.
Mais je pense qu'il se met trop la pression.
Mais en plus, plus, j'ai l'impression que tout le week-end il était en mode lunettes de soleil pour pas qu'on voit mes yeux et mon visage.
Oui.
En fait, Grosjean, c'est comment évaluer son état d'humeur. Il a ses lunettes. Ça a pas eu tout. Il a ses lunettes sur le front, comme après les qualifs, quoi. Ça va nickel.
mais tu vois, à Sepang, on a vu des images de lui en train de manger une glace, en train de faire une blague d'ailleurs aux caméras de Canal+. Voilà, on l'a senti un peu plus détendu et ça a bien marché derrière. Et là, on l'a senti encore une fois crispé parce que c'est vraiment un pilote. On a l'impression que si le week-end ne se déroule pas bien, il se perd, il perd le fil, il se démoralise. Et puis il est capable de se donner la pêche le samedi pour être déçu le dimanche. Enfin voilà, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'il trouve quelqu'un qui lui sorte la tête de tout ça pendant le week-end. Faut qu'il se trouve quelqu'un en dehors du week-end qui l'emmène, je sais pas, au resto un soir, un samedi soir, compagnie. Voilà, qui s'aère l'esprit, qu'il arrête d'y penser, quoi, parce que on a vraiment l'impression qu'il lui-même qui s'emprisonne.
Parce que j'ai l'impression qu'il veut rééditer ses podiums, etc. l'année dernière, tout en faisant des bons départs. Et à mon avis, s'il se concentre uniquement à faire une bonne course et à faire tout en faisant attention au départ, à mon avis, il pourra aller beaucoup mieux parce que au moins il aura plus la pression, on va dire, des résultats il faut absolument.
Mais je pense surtout c'est que l'année dernière, sur la fin de saison, on avait vraiment un peu l'impression qu'il jouait sa place à chaque Grand Prix.
Oui.
Et je pense qu'il est resté en ce début d'année, il est resté sur ce mode-là. Mmh. Après chaque Grand Prix, on a l'impression qu'il va pas finir la saison. Et c'est mental, hein. Enfin c'est 100% mental parce que la vitesse elle est là, enfin t'as pas un pilote qui perd la vitesse ou qui perd son pilotage.
Sa qualif parle d'elle-même, il est capable de faire un très bon chrono, donc voilà quoi. Et après ça me semble bizarre parce qu'il me semblait qu'aussi l'année dernière il était capable de plutôt bien gérer les pneus Pirelli.
Oui, mais là en fait les pneus, si tu veux, l'an dernier ils se dégradaient pas mal sur l'arrière et là cette année ils se dégradent pas mal sur l'avant, donc ça influe aussi sur le pilotage. Voilà, par exemple le phénomène de Greening, on entendait très peu parler l'an dernier. L'an dernier, c'est ce sur quoi insiste Pirelli d'ailleurs. Ils disent que il faut faire la différence entre la dégradation des pneus et l'usure. L'an dernier, les Pirelli étaient des pneus qui s'usaient. Cette année, les pneus Pirelli sont des pneus qui se dégradent. Voilà, et c'est vrai que c'est une nuance qu'il faut réussir à prendre en compte. Et ça influe sur le pilotage, ça influe sur beaucoup de choses, quoi.
Les classements, donc, messieurs. Eh bien, c'est Kimi Raikkonen qui est toujours premier avec 49 points devant Alonso, 47 points. Hamilton 37, Vettel et Massa 35. Ça fait mal quand même pour Vettel, hein.
Ouais, et je vous dis que Vettel ne sera pas champion au classement du SAV. Sauf si vraiment il sauve l'équipe ou je sais pas quoi, ou il fait un truc merveilleux, mais je pense qu'il va le payer.
Il y a un truc qui s'est cassé.
Ouais, il y a un truc qui s'est cassé avec le public.
Au niveau du classement des équipes, eh bien c'est Ferrari qui est devant, 82 points, devant Red Bull 61, Lotus 58, Mercedes 57. Dans l'autre classement, c'est Vettel qui est premier avec 52 points devant Raikkonen 49, Alonso 43, Hamilton 40, Massa 30 et Weber 26. Chez les constructeurs, Red Bull est devant avec 78 points, Ferrari 73, Lotus 60, Mercedes 52. Passons aux faits marquants, messieurs. Donc on vous a demandé il y a longtemps. C'était il y a 2 semaines. Il y a trois semaines. Donc quel était le fait marquant du Grand Prix de Malaisie? Vous avez été 134 à voter comme d'habitude. Merci à vous. De même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10.
Mais ils étaient 129 cette semaine.
Est arrivé troisième, 13 votes, le très faible niveau de Gutiérrez, 9,7%. On s'y attendait un peu.
Ça peut marcher, hein. Sincèrement, ça peut marcher ce week-end.
19 votes, Hamilton découvre les consignes chez Mercedes, 14,18%, mais bien évidemment, mais c'était évident que tu allais gagner. 102 votes, 76,12%, Red Bull Wars 2, la guerre des clowns.
Je l'avais oublié.
Prochainement, le film avec George Lucas. Donc c'est à Rémi de commencer.
En fait, je sais pas quoi, de quoi trop causer là.
Ah, tu peux taper sur le gros Jean, ça serait beau pour toi. Dire la déception au gros Jean.
Je ne taperai pas sur le gros Jean. Je ne ferai pas poulet gros Jean. D'ailleurs, il me semble que t'as arrêté d'appeler poulet.
Ouais, mais c'est non, très mais bien.
C'est sur courant alternatif. Des fois, je dis, des fois, j'appelle poulet. Ouais. C'est la preuve que je suis sérieux et que je suis à fond dans ce que je dis.
Ça a duré un peu de temps, je suis désolé.
On va mettre un timer, tu vois. Si t'as pas un fait marquant en moins d'une minute, Dino, il en choisit deux.
Non, je sais, c'est en train de ça va être autour de la victoire d'Alonso et son message radio. Et on va dire, Alonso se balade à la première place.
Kenji?
Raikkonen, un pilote qui a du nez.
Mark Webber, éparpillé façon puzzle.
Donc cette semaine, pour le fait marquant du Grand Prix de Chine, vous aurez le choix entre Alonso se balade à la première place, Mark Webber éparpillé façon puzzle. Dans le film, c'est puzzle.
Oui, mais moi je dis puzzle, parce que je suis...
Ou bien Raikkonen, un pilote qui a du nez.
Ça sent le truc qui a été écrit il y a deux jours.
Non, même pas.
Non. Oh.
C'était facile, mais non, je l'ai pas écrit il y a deux jours. On va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Ah, le concours et sa fameuse question de la semaine.
Et Shinji, avant, j'aurais une petite annonce à faire.
Oui.
Une petite annonce pour le concours. Alors le concours, vous le savez, cette année, nous allons vous faire gagner des lots. On l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. On a déjà prévu la liste des lots. On peut vous dire qu'il y aura des lots un peu exceptionnels à Monaco et au Grand Prix de Belgique, qui sont des grands prix un peu particuliers. Voilà, donc on vous annoncera au fur et à mesure les lots. Mais je voulais revenir sur la fin de saison, puisque nous allons quand même, lors des précédentes années, vous gagner des tickets pour participer à un tirage au sort de fin de saison pour gagner un lot. Et cette année, vous allez quand même pouvoir participer à un tirage au sort de fin de saison qui va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à chaque émission, quand on vous départage, les candidats qui ont donné une bonne réponse à la question, mais qui n'ont pas été sélectionnés par moi ou par n'importe quelle personne qui me remplacera, se verront attribuer un ticket pour le tirage au sort en fin de saison. Donc voilà, comme l'an dernier, plus vous participez, plus vous donnez de bonnes réponses, même si vous n'avez pas le lot du Grand Prix, vous allez être repêché pour le tirage au sort de fin de saison. Et là, ce tirage au sort, il va peut-être être intéressant. Et je vais vous faire deviner le lot.
Je ne connais pas le lot.
Alors, messieurs, si je vous donne la date du 26 septembre, est-ce que ça vous évoque quelque chose?
Le lendemain de l'anniversaire de ma sœur?
Peut-être, mais non. C'est aussi le lendemain de la sortie du film Rush. Et d'ailleurs, il y a un rapport avec le film Rush, mais ne cherchez pas. C'est un rapport avec la Formule 1.
26 septembre.
Ça se passait au Portugal.
Ah, parce que vous cherchez là tout de suite?
Oui.
Ah!
Ça se mérite quand même.
D'accord, ouais, Portugal. Fin de saison, plutôt. Ouais. Oui.
C'est important d'ailleurs que ce soit en fin de saison. Michael Schumacher remportait la course.
D'accord.
Damon Hill portait alors le numéro 0.
Ah!
Donc pour l'année 96.
Non, c'est 93 ou 94.
C'est 93.
D'accord.
Donc, que s'est-il passé au Portugal le 26 septembre 1993 et d'où nous fêterons donc les 20 ans le 26 septembre 2013?
Alors, le là. Titre?
C'est le titre de...
De Prost?
C'est le titre de Prost, c'est le dernier titre de Prost et le dernier titre d'un pilote tricolore. Et donc, et là, Shinji, je sais que ça va te faire plaisir. Tu vas être content d'offrir ce cadeau. Pour le vainqueur du tirage au sort de fin de saison, qui réunira donc tous ceux qui ont participé, qui n'ont pas eu de lot lors d'une émission, mais qui ont participé et qui ont donné une bonne réponse du Grand Prix d'Australie au Grand Prix du Brésil, seront éligibles, donc, pour ce tirage au sort. Et le lauréat de ce tirage au sort se verra offrir une réplique à échelle réelle du casque d'Alain Prost de cette année-là. Un casque notamment avec le petit Sonic dessus.
Ah bah oui, c'est vrai, oui.
Un casque d'une valeur quand même, je tiens à vous dire, d'une valeur de 515 euros, je crois. Voilà,
oh,
donc
putain.
C'est un très joli cadeau pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui nous permettent de financer ce concours et qui se reconnaîtront. Voilà, merci merci beaucoup à eux je les remercie notamment en votre nom à vous auditeurs et en notre nom à nous de l'équipe du SAV. Voilà, donc n'hésitez pas à participer régulièrement au concours. Plus vous participez et vous donnez de bonnes réponses, plus vous aurez de tickets pour ce lot de fin de saison. Voilà, on fera un tirage sur vidéo à la fin de la saison et donc vous pourrez gagner ce magnifique lot. Voilà, ça fait plaisir chez Dieu ce lot.
Ah bah oui, c'est la classe.
J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut encore parler de l'eau, là?
C'est plus un simple lot, c'est...
Ah non, c'est premier prix, quoi.
Et donc, on peut passer à la clé USB.
Ça fait tellement moche à côté.
Mais non, c'est une belle clé USB, j'ai dit.
Ah. Donc, on vous rappelle la question que Dino a choisie. Parce que c'est Dino qui l'a choisie, faut le dire.
Vas-y, balance-moi.
Le premier pilote chinois à avoir roulé lors d'un week-end de Grand Prix a fait partie de plusieurs équipes de Formule 1. Quelles sont les couleurs communes aux drapeaux nationaux de ces différentes équipes? Par nationalité, on entend bien sûr parler de la licence. Le premier pilote chinois à avoir roulé lors d'un week-end de Grand Prix, c'est...
C'est Kuma.
C'est Kuma. Ma Kuma, qui a roulé en 2012 pour HRT, équipe espagnole. Et cette année, d'ailleurs, il a roulé en essai libre au Grand Prix de Chine avec Caterham, équipe
malaisienne.
C'est très important, vous allez voir, puisque sur 6 réponses, on en a 3 de bonnes.
Ah,
j'ai jamais
bien
vu ça.
Mais tu vois, c'est bien. C'est aussi le but du jeu, c'est de trouver des questions qui vont piéger les gens.
Donc, quelles sont ces couleurs communes? Le drapeau malaisien, qui est sur le modèle du drapeau américain, contient du rouge, du blanc, pour les
bandes.
Les bandes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du bleu et du jaune, donc c'est sur fond bleu, c'est un croissant, si je me rappelle bien.
Oui, il y a un soleil aussi.
Une étoile. Le drapeau espagnol est rouge et jaune, bien sûr. Mais n'oubliez pas que l'Espagne est un royaume depuis plusieurs siècles, que malgré des jours sombres au XXe siècle, il est redevenu un royaume dans le courant des années 70, et donc qu'il porte un blason sur ce drapeau. Et sur ce blason, il faut dire qu'il y a plein de couleurs.
Oui.
Notamment le bleu et le jaune. J'essaie de retrouver les couleurs.
Et le blanc.
Oui, le blanc. Voilà, le bleu et le blanc. Donc, les couleurs que nous cherchions, la réponse, c'était le rouge, le jaune, le bleu et le blanc. C'était ces 4 couleurs, en fait, qu'on vous demandait. Alors, à noter, alors je ne l'ai pas dit pour les précédentes questions. Là, comme il y en a eu, je le dis. Alors, bon, peut-être que certains auraient pu avoir envie, mais je préfère le préciser. Si vous m'envoyez un mail avec une réponse, mais que vous pensez... Après, vous dites, ah merde, j'ai peut-être dit une connerie. Hein. Si vous en êtes rendu compte, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Alors, n'envoyez pas 15 mails non plus, hein.
Non.
Ah, voilà. Mais.
À un moment donné, on s'arrêtera.
Voilà, on s'arrêtera. Mais, voilà, si vous pensez que votre première réponse, ou voilà, vous vous dites, ah merde, en fait, j'ai envoyé à Shinji une mauvaise réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un autre mail. Par contre, attention.
On tiendra compte de la dernière réponse.
Voilà, je prends compte la dernière réponse. Si vous me renvoyez un mail et que, en fait, le premier mail était bon et que le deuxième est faux, je compte le deuxième. Ou le dernier, voilà. Que ce soit bien clair pour tous les auditeurs. Et donc, les questions de ceux qui ont eu les bonnes réponses.
Est-ce que Rémi a participé?
J'ai pas participé.
D'accord.
Vu que j'avais gagné la première fois, je me suis dit, je vais leur laisser un petit peu de chance aux autres. Je suis généreux.
Tu vois, du coup, t'as perdu un ticket pour le casque Alain Prost.
C'est surtout quand, en fait, là, j'avais, je comprenais pas trop la question et j'avais pas envie de mettre sa tête là-dessus.
Tu vois, elle était bien cette question, en fait, Sylvie. Elle a bien écrémé les gens.
Alors, n'oublie pas que le prochain Grand Prix n'est que la semaine prochaine. Je dis ça comme ça.
Oui. Ouais.
Alors, première question. Depuis son inauguration en 2004, quel pilote a gagné le plus de points sur le circuit de Bahreïn? Deuxième question. Sans compter les Grands Prix de 2013, quelle fut la dernière course sur laquelle on a vu 4 Français au départ en F1? Et enfin, en ces temps où l'essence doit être dosée au millilitre près, si on prend une seringue de 60 millilitres, combien de seringues faut-il pour remplir un réservoir de F1?
Ah, c'est con, t'aurais intégré un truc sur Weber, elle m'aurait bien plus de questions. C'est dommage, parce que sincèrement, c'est combien de seringues il aurait fallu mettre pour combler le réservoir de Weber pour pas qu'il soit disqualifié. Voilà, ça m'aurait intéressé.
Mais vous savez quand il sait peut-être pas que Weber est très disqualifié à cause de l'essence.
Moi j'ai la date du mail donc.
Oui, je pense que de toute façon même s'il parle d'essence, je pense que ça a peut-être dû lui venir après ça.
Oui, bah oui.
Ou alors c'est un fan d'essence. Le mec il adore l'essence. Il aime les réservoirs. Allez, c'était le premier podium d'un Français l'an dernier, donc ce sera la question sur les 4 Français en Formule 1. Même si la question y a un peu de recherche, donc voilà.
Eh bien, bravo Alan.
Bravo Alan.
J'espère que tu as un PC. En même temps, a priori, si tu nous écoutes, c'est le cas. Quoique, en même temps, si t'as un smartphone.
Pourquoi t'espères qu'il a un PC?
Bah parce que pour une clé USB, c'est quand même vachement plus pratique.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Bah après, il peut. Bon, elle est en forme de clé à molette. Il peut toujours s'en servir comme clé à molette. Mais son but premier, c'est quand même d'être une clé USB.
C'est une clé USB qui enregistre des données et qui change les joints de culasse. C'est pratique.
Voilà.
Ça se trouve, en fait, c'est... Nous, tu sais, on croit que c'est miniature, mais en fait, c'est un truc qui fait 3 kilos. C'est pas une clé de 8, c'est une clé de 40.
Alors, en fait, ce genre de truc, si jamais il n'en a pas utilité, il peut toujours ça vendre à un étudiant en génie mécanique sur une chose, parce que comme ça, il pourra faire ses travaux pratiques, et puis quand t'es étudiant sur une chose, t'as toujours besoin d'une clé USB.
Donc bravo Alan, hein, franchement, belle question, et puis bien avoir répondu à la question, c'est bien.
Oui, c'était un exploit déjà cette semaine.
Par conséquent, précisons bien que tu n'es pas éligible pour le cadeau à l'improche de fin de saison.
Voilà, mais après, si tu réponds...
T'as eu ton cadeau, maintenant, voilà. c'est les autres qui sont
empêchés. Mais après, même si vous avez gagné un truc, si vous répondez bien aux autres questions, mais que vous n'êtes pas choisi, vous rentrez dedans.
Voilà.
Vous n'êtes pas éliminé du truc parce que vous avez gagné un cadeau.
Bon, là, au Bahreïn, tu pourras pas répondre, ça, c'est ta question.
Forcément,
mais,
ouais.
Après, voilà. À l'Espagne, tu pourras répondre. Et si jamais t'es pas retenu, mais que t'avais bien répondu, t'auras ton ticket pour le casque à l'improche.
On va citer Thibaut, qui avait cité la question, donc, sur le nombre de points, hein, depuis les débuts du Grand Prix de Bahreïn. C'est Fernando Alonso qui a marqué 59 points.
En même temps, il me semble qu'il a fini tous ses, depuis qu'il y a Bahreïn, il a fini tout le temps dans les points.
Bah, en même temps, compte tenu du barème des Bahreïn, parce que là, sur 2004-2012, on est sur plusieurs. C'est pas énorme.
Mais bon, il a gagné au moment où il fallait gagner, quoi. Quand tu comptes que l'année dernière, il y a eu le Grand Prix avec Vettel, il y a 2 ans, il n'y a pas eu le Grand Prix, il a gagné il y a 2 ans, donc en fait, ça doit jouer sans doute, il doit y avoir Vettel qui ne doit pas être très loin derrière lui.
Et alors donc, la question sur les seringues, c'était une question de Maël.
Oh, Maël.
Et donc, le calcul, donc un réservoir de F1 fait, il fait combien d'ailleurs, vous le savez?
160 litres 180 litres?
Oh non.
150?
Alors, selon Maël, pour le coup, c'est vrai que maintenant...
On t'a filé le doute, hein.
Ouais.
Bah, je suis content, on l'a pas connu.
Il me semble qu'il fait dans les 150 litres, un truc du genre.
Parce que là, sur la réponse qu'a donné Maël, j'ai un réservoir fait 120 litres.
Faudra demander à Gus.
Donc, sur la base de 120 litres, ça fait 120 000 millilitres. Divisé par 60, ça ferait 2000 seringues.
Ouais.
Donc c'est pas très efficace pour une équipe de F1.
Apparemment, le réservoir doit pouvoir embarquer 200 litres d'essence environ.
Et donc, vous n'oubliez pas, avec votre réponse, de nous mettre une question avec sa propre réponse pour le prochain Grand Prix du Bahreïn. Alors, pour le Bahreïn, c'est pas là où, justement, on propose des thèmes hors F1 dans lesquels ils peuvent rajouter.
Ouais. Et moi, j'ai bien envie de proposer comme thème F1 et démocratie.
Ah.
Donc démocratie, dictature, respect des droits de l'homme, voilà. Et compagnie, voilà, c'est dans ce
thème-là.
Donc
pour la
question,
c'est soit une question sur la F1, vous faites ce que vous voulez, soit un truc sur la démocratie, voire
en sachant
que,
bien évidemment, la démocratie, c'est pas certain que je prenne une question sur la démocratie ou sur les respects des droits de l'homme et compagnie, mais bon voilà, si vous arrivez à trouver une bonne question sur la démocratie et mêlant à ça avec la F1, voilà, vous aurez vous attirerez mon attention plus facilement.
Voilà, c'est ça, faut attirer l'attention de Dino. Et quel va être le cadeau de la semaine prochaine?
Bahreïn. Ah oui, c'est pas les cadres.
Oui.
Ah.
C'est des cadres, donc des cadres Ayrton Senna, donc avec des photographies d'Ayrton Senna. Donc
c'est un cadre.
C'est un cadre. Ouais. Mais celui qui gagnera, en fait, il pourra choisir le cadre qu'il veut. Donc ouais. Que je regarde la taille, c'est des photos 20x16 avec un entourage noir et doré. Donc c'est un joli truc à mettre sur son mur. Alors il y en a un, c'est la célébration du podium de Spa en 91. Le deuxième, c'est Brésil 94, donc sur la Williams. À l'époque, c'était en début de saison. Ou bien il y a Donington 93. Donc voilà, il y a trois photos. Donc celui qui gagnera, voilà, il pourra choisir celui qui lui plaît le plus. Et à noter, Alan, que je t'enverrai donc un mail normalement très rapidement. Je les envoie très rapidement pour que là pour le coup il n'y a pas de choix à faire, mais pour tes coordonnées.
Et donc encore une fois, donc bravo à Alan et puis Timo et Maë, vous avez un ticket pour le tirage au sort de fin de saison, en espérant que vous pourrez en collecter plusieurs tout au long de l'année. Il va être énorme ce tirage au sort. Je sens qu'on va avoir des centaines de milliers de tickets à. Enfin, qu'on trouve une main innocente, ça m'énerve.
On vous rappelle, hein, comme d'habitude, que pour répondre, c'est sur l'adresse concours, donc ça s'écrit comme un concours, hein, @savf1.fr. Très important de l'envoyer sur concours et pas sur une autre adresse.
On envoie au concours pour répondre en concours.
Voilà.
C'est logique.
Et donc, pour poser une question sur le répondeur, c'est l'adresse
répondeur@savf1.fr. Voilà,
c'est tout est lié. Voilà. Et pour nous contacter, c'est
contact@savf1.fr.
Voilà.
Mais sinon, on peut aussi sur Twitter.
Ça, c'est après. Parce que d'abord, hein, Rémi.
Ah oui, c'est pour moi.
Bah
mon tour.
C'est ton tour. C'est cher, 40 euros.
Ah oui.
Et vrai, il nous a teasé pendant toute la soirée en lui disant « Ah, j'ai un truc pour les 40 euros et compagnie, vous allez voir. » Il a mis la barre très haut. On bouillonne d'attente.
Oui.
Ça a intérêt d'être sacrément bon, parce que là, sincèrement, moi, je suis chaud bouillon. Ah, depuis la statistique de Romain Grosjean, alors là, j'ai jamais rien attendu de ma vie, entre la statistique de Grosjean et ça, jamais j'ai rien attendu de... Waouh, c'est... Oh là
là. Bon. Donc pour 40 euros, moi, ce que je vous propose, bah, c'est passer un bon petit week-end à Toulouse, parce que Toulouse, c'est une très bonne ville. Donc d'abord, ce que je vous conseille déjà, c'est d'y aller début juin. Le mieux, ça serait de commencer le samedi 8 juin. Parce que 8 juin, il y a un truc qui est vachement sympa. C'est juste à côté, en fait, de Toulouse. C'est un petit salon qui s'appelle Air Expo. Pour faire simple, c'est le salon du Bourget, donc avec plein de patrouilles, etc. Mais en plus petit, un peu plus convivial. Donc l'entrée, t'as 5 euros. Donc j'y suis allé il y a 2 ans. J'ai vu un truc, c'était sympa. Il y avait... une patrouille qui était à peu près équivalent de la patrouille de France, mais un petit peu différent. Il y avait un petit sketch avec des avions anciens, enfin bref, etc. Donc pour 5 euros, on passe une très bonne journée.
Et tu y vas seul?
Moi j'y vais seul, ouais.
D'accord.
C'est 40 euros par personne, ouais. Faut qu'on fasse ça, quoi. On n'a pas dit que c'était, pour plusieurs personnes.
Ça s'adresse à nos auditeurs, et ça peut très bien être un truc à faire tout seul.
Donc après, ce que je vous conseille, c'est, on va s'acheter un petit truc pour un petit souvenir, quoi, une petite broche, un truc du genre, donc ça se trouve là-bas. Il y a des petits stands sympas, donc on trouve un truc facilement pour 5 euros, quoi, donc ça fait 5 plus 5, 10.
Je ferai l'addition à la fin. C'est ma petite musique des chiffres des lettres, ne t'inquiète pas.
Donc après le dimanche, et ben moi ce que je vous propose de voir, un truc classique à Toulouse, c'est la saucisse. La cité d'espace.
Ah,
pour cette période-là, on est encore en basse saison. Donc, c'est ouvert le dimanche toute la journée et pour 20 euros, on a accès tout au truc. Donc c'est ça. On passe une journée sympa pour 20 euros, quoi.
Je sais qu'il y a ça. Ouais.
Donc ça, c'est pour samedi et dimanche. Et puis bon, après, on va être pour le lundi, parce que bon, soit vous prenez un RTT, soit vous avez toute une vacance, donc des vacances, donc vous passez, vous en profitez, vous
faites un petit séjour. Le lundi au soleil, c'est un jour qu'on n'oubliera jamais, chaque fois c'est pareil. Ouais.
Alors moi, ce que je vous conseille, donc à côté de Toulouse, par Toulouse, il y a la Garonne qui passe. Et le long de la Garonne, on a fait ce qu'on appelle le canal du Midi. Et donc on peut faire, bon, ça démarre très haut, mais autour de Toulouse en tout cas, on peut faire une partie du balade du long du canal du Midi. Donc ça c'est gratuit, c'est vachement sympa. C'est un petit sentier qui est à côté de la Garonne, qui est assez calme. Parmi de la verdure, il y a des bancs régulièrement, etc.
Vous savez où aller.
Voilà. Donc ça c'est gratuit. Donc et puis imaginons que vous ne connaissiez pas Toulouse. Et ben moi ce que je vous propose c'est de faire un petit trajet qui est proposé sur l'office de tourisme de Toulouse, où on vous indique par où passer. Donc c'est la balade des incontournables, où là vous voyez les principaux monuments, vous passez par les principaux monuments du centre-ville. Donc ça c'est sympa.
La place du Capitole,
ce genre de choses.
La place du Capitole,
non, puis après
tu passes la place du Capitole. Le mec, il a une grande idée de ce qui se passe en Toulouse.
Voilà.
Puis bon, bah, vraiment pour finir, quand t'as bien passé une bonne journée,
tu vas
à la place du Capitole.
Et ben justement, quand on parle de la place du Capitole, et ben c'est que après ces deux balades, ben à ce moment-là,
la balade elle est gratuite, hein, celle-là.
Les deux c'est gratuit, ouais, parce que c'est en plein air, c'est en pleine ville, etc. Donc il y a pas de souci, hein. Donc,
c'est pas cher Toulouse en fait.
Ouais, ça, c'est pas cher. Donc après, ben à ce moment-là, ben quand même, il fait un peu chaud quand même. Donc bon, t'as chaud, tu commences à être fatigué et tout, etc. Moi, ce que je vous propose, ben c'est justement de faire une pause à la barre de la place du Capitole, et ben vous prenez une petite bière, un petit coca, un truc de genre là, bon ben ça vaut ce genre de choses, ça va encore dans les 5 euros, quoi, donc à peu près, quoi, équivalent. Donc voilà. Et puis après, faut pas oublier que imaginons que vous voulez voir des gens que vous connaissez, aller dans d'autres coins de Toulouse, etc., etc. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est le passe-journée de TCO. Ça vous permettra en plus de passer par le métro toulousain, qui est vachement nickel d'ailleurs. J'adore le métro toulousain, qui vaut lui 5 euros la journée. Et donc pour tout ça, vous avez 40 euros pile.
Attends, je calcule. 5 plus 5, je retiens 20, je rajoute 5, je fais la racine carrée de 5 par 5, que je mets au coefficient 7, le cosinus, ça fait 230, ouais, c'est vrai. Après, je rajoute, 6 plus 9, 14, 12, 29, 6,7, ouais, plus 5, ok, ouais, ça, c'est bon, d'accord, je retiens 3, demain, je soustrais, ok. Et le compte est bon, ça fait 40.
Le compte est bon.
Bravo!
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour meubler un jingle de merde?
Ouais, je sais pas pourquoi t'as parlé de racine carrée, en effet.
Ah bah, parce que moi, quand je calcule, j'aime bien que ce soit bien calculé. Tu vois? Parce
ouais,
que, il y en a, ils auraient fait 5 plus 5 plus 20 plus 5 plus 5. Bon, c'est bien, mais c'est un peu basique. Tu peux passer par des racines carrées, des exponentielles et compagnie, là.
C'est pour ça que t'arrives au-dessus de 200 aussi.
Oui.
Alors, messieurs, dès ce dimanche, comme dit l'adage, il y a 3 semaines entre la Malaisie et la Chine et 1 semaine entre la Chine et Bahreïn.
Oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que bon, là, on vous a proposé 7 trucs à faire si vous n'avez pas envie de claquer 40 euros dans l'abonnement. Mais si vous avez envie de claquer 40 euros dans l'abonnement Canal+, il y a un grand prix le week-end prochain.
Alors, messieurs, qui voyez-vous la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va être content. C'est terminé, les levées à 3h du matin. Ça y est, c'est terminé. Enfin, pendant 6 mois.
Ouais.
Ouais. Oui.
Ouais, c'est. J'aurais pensé me coucher, me lever plus tôt, mais aller sur un autre circuit.
Ouais, c'est voilà.
Les nuits blanches du vendredi soir, j'en avais marre, moi.
Non, mais il est bien, le circuit de Barré. Non, je dis ça, mais il est bien, le circuit de Barré.
Ouais, il est bien, ouais.
Voilà, non, mais j'ai pas dit, ouais, il est génial, j'ai dit, il est bien. Ah, il est pas. C'est le pire, mais il y a encore pire dans le monde. Il y a la VUS. Voilà. Et Indianapolis.
Oh non.
Oh non, sincèrement, non, mais hey, je te dis, en termes de tracé, je suis désolé, mais tu mets Bahreïn à côté d'Indianapolis, tu t'amuses plus sur Bahreïn qu'à Indianapolis quand même.
Ça dépend.
Ah bah, c'est sûr, sur Indianapolis, il y a que 6 voitures.
Non, attention, Indianapolis version normale, le vrai circuit. Quoi, Voilà, tu mets Daytona, tu mets Pocono, tu vois, tous ces circuits-là, ils sont moins intéressants que le circuit de Bahreïn.
Des ovales, quoi.
Bah oui, ceux qui ne peuvent pas mathématiquement avoir plus de virages intéressants que Bahreïn.
Pas de prono pour la semaine prochaine?
Raikkonen.
Grosjean. Non, quand même pas. Non,
allez,
Grosjean sur le podium. Grosjean sur le podium.
Soyons fous, Massa.
J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive?
Bah écoute, hein, je sais que je vais me faire chier la semaine prochaine. Alors,
Massa,
autant qu'il y a un truc fun voilà, que je me réveille.
Je vote pour Massa, Rosberg, Grosjean, le second couteau.
Ah là, c'est devant le podium de rêve. Moi, je vote pour Raikkonen, Alonso et Hamilton, Vettel. Je crois que je vais regretter Vettel. J'en profite pour dire que nous aurons un invité à Bahreïn, mais pour les grands prix suivants, il y a des places, donc si vous êtes intéressé pour participer et faire comme Rémi, t'as vu Rémi, c'est bien?
Oh, c'est très bien.
On est accueillant, voilà, ça se passe bien.
On passe une bonne soirée, on va pas le temps passer.
Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est contact@savf1.fr. Voilà, il y a de la place à partir du Grand Prix d'Espagne, tout est libre, Espagne, Monaco, Canada.
Et les moments off sont très bien aussi d'ailleurs.
On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur Podcast France, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha. Oui, parce que maintenant, il y a trois canaux.
Ah ouais. Alors, tiens, ouais. Comme tu parles de podcast franche, je vais en profiter pour vous inviter et vous parler d'un petit projet auquel on va, même d'un grand projet auquel on va participer.
Le projet secret.
Le fameux projet secret fameux pour projet ceux qui secret. Nous suivent sur Twitter, pour vous inviter à écouter l'émission Dépêche Pod, qui est un podcast qui parle des podcasts. Donc, c'est oui. les sur Podcast France, vous allez vite trouver Dépêche Pod. Hein.
Alors, vous allez vous dire, oui, mais nous, on n'écoute pas forcément des podcasts. Mais quand vous allez entendre les invités, vous allez dire, c'est drôle, je les ai déjà entendus.
Alors, on s'était invité à cette émission Steph Core et Elder. Donc Steph Core qui était chroniqueur l'année dernière et Elder qui est chroniqueur dans le SAV cette année et qui ont décidé de se lancer dans un beau projet qui a pour but donc de faire un documentaire sur le monde des podcasts auquel nous participerons bien volontiers et voilà, ils ont réussi à réunir une équipe assez impressionnante de podcasteurs, donc ce sera l'occasion de parler un peu du phénomène podcast. Voilà, donc c'est une émission qui dure 52 minutes, voilà, ils vont présenter un peu leur projet. Ils vont aussi vous parler d'un autre projet qu'ils ont en commun et qui parle de la Formule 1. Voilà, donc des actus à suivre. On les remercie d'ailleurs là tout comme ça tout de suite.
C'est vraiment un honneur, vraiment, sincèrement. Et de façon générale, parce que on cite tout le temps Podcast France, mais donc pour dire que c'est un annuaire du podcast francophone, et peut-être que le seul podcast que vous écoutez, c'est nous, parce que voilà, c'est de la F1, que vous nous écoutez parce qu'on est de la F1, je vous invite à découvrir Podcast France, à découvrir la richesse du podcast francophone. Il y en a des centaines sur plein de sujets. Alors, il y en a beaucoup sur le high-tech, le geek, il y en a sur le cinéma, les séries, les jeux vidéo, il y en a vraiment plein, même de sport, il n'y a pas que nous.
Oui.
Enfin, sur la F1, c'est
nous. Sur la F1, il n'y a que vous pour
l'instant. C'est nous.
À la F1, c'est nous.
C'est nous.
Et puisqu'on est dans les podcasts, il y a Podcast France, mais on peut aussi souligner l'initiative de Pod Radio. Moi, je vous invite vraiment, si vraiment c'est pas quelque chose, les podcasts que vous connaissez, vous pouvez aller sur podradio.fr. C'est une radio qui diffuse des podcasts, voilà, toute la journée. Et ça peut vous permettre de découvrir certains podcasts. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai rien, bah, je mets Pod Radio et puis j'écoute.
Moi, j'utilise un autre truc, mais c'est plus spécifique parce que j'écoute les podcasts sur mon smartphone Android et il y a une appli. En fait, la fameuse Podcast Addict. Que je me rappelle quand on avait fait Podbox, il en avait parlé. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais une recherche, donc d'abord, t'as un moteur de recherche qui est vachement bien, tu tapes SAV de la F1, tu le trouves tout de suite. Mais il y a un lien, en fait, réseau de podcast. Et donc là, t'as une page, t'as Europe 1, RTL, RMC avec toutes les émissions en podcast, mais t'as aussi No Watch, FreePod, et tout ça. T'as juste à cliquer dessus et t'as accès à tous leurs podcasts. Et là, c'est pareil, avec une présentation et tout. Donc quand tu connais que dalle, c'est génial pour découvrir les podcasts.
Et précisons que sur Pod Radio, nous sommes diffusés le jeudi matin de 6h30 à 8h45.
Ah, mais il y a plusieurs diffusions maintenant qu'il y a trois canaux.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on est aussi le mardi de 12h30 à 14h45 et le lundi de 19h à 21h45 sur le canal Alpha.
Alpha, voilà.
Donc voilà, vous avez de quoi vraiment... Et donc si vous nous écoutez parce que vous êtes sur Pod Radio et que pile poil à ce moment-là vous nous entendez parler Pod Radio, c'est déjà bravo, vous avez le sens du timing et on espère que vous nous écouterez sur Pod Radio, mais aussi sur que vous nous découvrirez sur fanf1.com si vous êtes fan de Formule 1, parce que fanf1.com c'est...
La famille.
Je suis nul pour faire...
Mais t'es super nul. Mais c'est pas ça.
C'est quoi la phrase?
Mais c'est pas ça. La phrase, les deux phrases, c'est l'AF1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com, voilà.
Hein, parce que le SAV de l'AF1, c'est...
Gratuit, la famille, le reste des podcasts.
Voilà, c'est là que vous avez le choix.
Voilà. Barrez les mentions inutiles.
Il y a un moment, il va falloir qu'on supprime, hein, parce que si on en rajoute un tous les ans, ça va plus tenir. Hein. En tout cas, merci Rémi de nous avoir accompagnés.
Il n'y a pas de souci.
Oui, merci avec beaucoup, d'être
un
fidèle.
Ton rire si communicatif, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir.
Je sens qu'il va pas couper celui-là.
Dino, est-ce que tu as préparé ce qu'il faut toujours que tu prépares à la fin des matchs?
Je prépare toujours. J'ai eu une idée aujourd'hui, vous êtes passé à côté de quelque chose de grand. Non, ce n'est pas une chanson, je vous rassure.
Surtout en Chine. Oh non, faut arrêter. Merde. Gus, tu fais de la chanson. La femme qui commence à dire, ah oui, alors d'accord, c'est ce style-là, genre, oh bah écoutez.
Mais Fab, il a un micro SingStar, faut bien qu'il s'en serve.
Oui, mais on a tous des micros, hein.
Oui, bah, tu viendras un jour chez Dino. Toi aussi, tu nous rejoindras.
Mais méfie-toi, Dino, parce que là, tu te moques. Et qui sait? Je dis pas que j'ai un projet top secret. Ah. Mais j'ai des idées aussi. Et moi, tu vois, toi, tu fais l'italien, moi, je le fais en finlandais, tu vois, hein. Moi, si je...
C'est pas le même niveau.
Si je commence à sortir un truc, hein, moi, c'est Fernando Alonso, tu vois, c'est pas Sergio Perez, hein.
On avait une chanson sur Rubens en français. On va avoir une chanson à l'honneur de Kimi Räikkönen en finlandais.
Ah oui, alors ça, Kimi qui nous fait une chanson sur Kimi Räikkönen en finlandais, alors moi je veux écouter. Et donc je suppose, Chénie, que tu veux mon petit proverbe.
Mais oui.
C'est ça, c'était tout ce processus-là, c'est pour me faire m'humilier devant la France entière, enfin devant les gens
pour
qui
nous
écoutent.
Pour dire un grand au revoir à tous ceux qui nous écoutent.
Oui, bah vu les qualités de mes proverbes, c'est pas vraiment un grand au revoir, c'est plutôt un revenez jamais. Découvrez cette émission. Puisque le proverbe cette semaine est le suivant, c'est naturellement un proverbe chinois. Je vais essayer cette année de respecter les nationalités. Il faut faire vite ce qui ne presse pas, pour pouvoir faire lentement ce qui presse.
Lights out.